Dia. C'est la fête des marques chez Dia. Et aujourd'hui, pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles d'Evian, le deuxième est à moins 70%. Oh oui ! Moins 70% sur le deuxième pack d'Evian, c'est dans tous les magasins Dia. Oh, et faites bien comme moi, hein, pendant les matchs. Oubliez pas de vous hydrater. Mais vas-y, fais la passe !
Dia. Les prix bas, c'est chez Dia.
Et c'est tous les jours.
6 fois 1 litre 5.
Bonjour à tous, on a ce matin, vous l'entendiez tout à l'heure, les révélations du patron de l'antiterrorisme français sur les camps d'Al-Qaïda en Syrie. La France en ligne de mire, il parle pour la première fois depuis 2 ans et c'est donc sur RTL dans 10 minutes. On parle aussi de la grève qui vous empêche peut-être de venir travailler ce matin. Racontez-moi comment vous êtes organisé et on vous donnera évidemment les dernières prévisions. 32-10 pour vos commentaires. 7h50, Xavier Bertrand, l'ancien ministre UMP invité de Jean-Michel Apathy. 8h20, RTL do Brasil avec Pascal Boni. Parce que le football, c'est aussi de la politique parfois. 8h30, le patron d'Uber, l'ennemi juré des taxis avec Yves Calvi. Et puis 9h, laissez-vous tenter le nouveau Mika. Attention, chanson de l'été.
Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi, on fait boum, boum, boum.
Ça désespère Jérôme Florin, vous retrouvez dans une seconde. Il est 7h sur RTL.
RTL Matin.
7h, 9h30.
Avec Laurent Bazin.
Bonjour Jérôme Florin.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
C'est grève à tous les étages aujourd'hui.
Oui, tout le monde s'y met, la SNCF et les taxis, mais pour des raisons différentes. Ça va être très difficile, surtout en Ile-de-France. Et à la gare du Nord, on vit déjà un cauchemar éveillé. Les couteaux sont provisoirement rangés à l'UMP. La nouvelle direction a été validée. Les conditions de la prochaine bataille sont réunies. C'est ce que nous dira Jérôme Chapuis. La vie de bureau, cet enfer, c'est le résultat d'une enquête qu'RTL vous dévoile ce matin. Et puis à la veille du premier match du Mondial, vous suivrez un groupe de supporters français. Ils ont réussi à croiser les Bleus hier à l'entraînement. Grâce à qui ? Grâce à RTL.
7h13, les révélations du patron de l'antiterrorisme français. Interview exceptionnelle de Loïc Garnier, recueillie par Thomas Proutot. À 7h20, la question écho avec Christian Menanteau. Bonjour Christian.
Bonjour Laurent.
Le PLF... R, c'est un nom assez barbare pour parler de ce qui nous attend côté impôts, des baisses comme promis.
Oui, un gros bataillon de ménages va en effet être soulagé du côté du fisc, mais comme il y aura moins de recettes fiscales, il faudra bien des compensations. Et alors là, qui va compenser, qui va payer ?
Le 7h, Jérôme Florin.
RTL Matin.
On peut dire ce matin, Jérôme, qu'une bonne partie de la France, en tout cas côté rail, est bloquée.
Oui, grâce à la grève à la SNCF très suivie, un cheminot sur deux et grève des taxis. On va y revenir dans un instant. Gros plan d'abord sur les rails. La CGT et Sud se sont lancés dans un mouvement reconductible. Ils protestent contre le projet de réforme ferroviaire qui doit rapprocher Réseau Ferré de France et la SNCF. Sur les grandes lignes, comptez sur un TGV sur deux ou trois selon les axes. 3 trains sur 10 pour les intercités, 1 train sur 3 pour les TER et les Transiliens. En Ile-de-France, seul le RER A est épargné. Drôle d'ambiance, Gare du Nord ce matin. Sinamir, bonjour.
Bonjour.
C'est l'heure de pointe et on tire déjà la langue sur les quais. Hein.
Oui, surtout sur les lignes de RER B et D. 5 fois moins de trafic en ce moment et la journée elle ne fait que commencer. Jusqu'à 45 minutes d'attente parfois pour monter dans la rame bondée. Geneva avait pourtant mis le réveil 1 heure en avance ce matin. Résultat, quasiment 1 heure de retard à l'arrivée sur Paris.
Bah, il y a 15 minutes d'attente, il y a du monde partout. Moi, j'ai mis au moins 30 minutes de chez moi. Hein. Donc, je suis obligé de sortir de chez moi à 4h et quelques pour pouvoir arriver à 7h au boulot. J'ai 1 heure en plus là. Bah, je crois qu'il faut aller bosser.
Eh oui, obligé de faire des pieds et des mains pour arriver au travail ce matin. Fin du match pour Recep, 2 heures de retard à l'ouverture du store. Rebelote ce soir. Lui a décidé de ne pas ouvrir son magasin aujourd'hui.
Bon, je monte, je descends, j'attends toujours. J'essaie d'avoir des informations, mais j'en ai pas. C'est un peu dégoûtant, c'est tout. On attend depuis une demi-heure. Je me suis réveillé à 4h30 pour prendre le train de Aulnay pour arriver à Paris Nord à 5h40. J'ai aucun train, j'ai rien du tout. J'attends toujours. Oui, bah oui, j'en ai perdu.
Et ouais, pour les Transiliens et les TGV, ça n'est pas mieux. Les seuls qui peuvent ouffer de soulagement ce matin, ce sont les voyageurs internationaux. Ça roule quasiment normalement vers la Belgique et Londres. Reste désormais à trouver le chemin des quais. Malgré les 200 gilets rouges mobilisés, ce n'est pas toujours une partie de plaisir.
Sinamir en direct de la Gare du Nord pour RTL. On le disait, il ne faudra pas non plus compter sur les taxis. Jour de grève européen, il fallait que ça tombe aujourd'hui. Grève contre les véhicules de tourisme avec chauffeur, les VTC, des concurrents de plus en plus féroces. Les taxis vont bloquer les grandes villes. Paris, Lyon, Nice, Marseille. Va-t-on revivre la grande pagaille de février dernier ? En Ile-de-France, les taxis se concentrent en ce moment autour des aéroports de Roissy et d'Orly pour converger dans quelques heures en direction de la capitale, comme Philippe, il vient de Bretagne.
On a roulé toute la nuit ici, donc on n'a pas fait 500 km, juste pour le plaisir, parce qu'on n'en peut plus. Nos charges vont plus vite que nos tarifs d'augmentation. Et en plus, on nous met une concurrence déloyale avec des gens qui simplement achètent une voiture. Nous, on a des licences qui valent jusqu'à 200, 250 000. Ce sont nos fonds de commerce, ce sont nos retraites. On a investi, on a fait travailler les banques, on fait travailler des salariés. Et donc, si vous ne nous entendez pas aujourd'hui, la prochaine fois, eh ben, les Bretons, la France entière montera à Paris, bloquera Paris. Et s'il faut bloquer 8 jours, 10 jours, on viendra. Et on viendra en force.
Philippe, chauffeur de taxi avec Anaïs Bouissou. Combien d'emplois supprimés chez Bouygues Télécom? On le saura cet après-midi après la réunion du comité d'entreprise. La direction dévoilera son plan d'austérité pour s'adapter au nouveau marché du mobile, marqué notamment par la baisse des prix et la concurrence de Free. L'ouverture aujourd'hui à Pau du procès de l'ancien médecin urgentiste Nicolas Bonnemaison. Il est accusé d'avoir empoisonné 7 patients en fin de vie. Lui a toujours affirmé que c'était pour soulager leur souffrance.
RTL 7h05.
À l'UMP, finalement, la guerre n'a pas eu lieu hier soir.
Finalement, les choses, effectivement, se sont bien passées. Au bureau politique, au siège du parti, certains craignaient l'explosion. En fait, le trio Fillon, Juppé, Raffarin a été validé. À la sortie, festival de sourires, même si chacun a gardé son couteau bien au chaud dans sa poche. Jérôme Chapuis.
Le trio des ex-premiers ministres avait tout verrouillé 2 heures avant à l'Assemblée dans le bureau de François Fillon. Si bien que quand les amis de Jean-François Copé tentent un baroud d'honneur en réclamant leur part dans la nouvelle direction, ils sont renvoyés dans leur corde. Notre offre est à prendre ou à laisser, menace Alain Juppé. Résultat, le vote est unanime, ce qui permet au maire de Bordeaux de sortir avec le sourire.
C'est très important d'avoir cette unanimité. J'avais dit moi-même qu'il fallait un consensus. Seule une décision aussi large que possible nous permet maintenant de repartir de l'avant.
Pendant la réunion, Jean-François Copé est complètement effacé. Il se contente de passer la parole et il tâche de se montrer beau joueur à la sortie.
La formule que nous avons adoptée était celle de la sagesse.
Le congrès aura lieu au plus tard en novembre. Éviter à tout prix le fiasco de la dernière élection, c'est la tâche que s'assigne le nouveau secrétaire général, Luc Châtel.
Nous allons prendre toutes les garanties pour qu'il y ait un beau débat devant les Français et pour que nous choisissions le meilleur entre nous.
Mais hier soir, la primaire, la ligne politique, les affaires, toutes les questions qui fâchent ont été évitées. L'UMP n'a pas mis fin à la guerre civile, elle a simplement organisé les conditions de la prochaine bataille.
Jérôme Chapuis, Marine Le Pen n'a toujours pas réussi à constituer son groupe au Parlement européen, contrairement à ce que laissaient penser plusieurs rumeurs. Hier soir, la présidente du FN a tenté de rassurer ses éventuels futurs alliés en sanctionnant publiquement son père après ses propos jugés par beaucoup antisémites. Papa au piquet, Jean-Marie Le Pen n'aura plus le droit de s'exprimer sur le site du Front National.
RTL Matin.
RTL 7h07, Jérôme Florin, Laurent Bazin.
RTL et Jérôme Florin qui vous dévoilent ce matin une enquête sur les bourreaux du bureau.
Un salarié sur deux estime que les incivilités ont augmenté ces dernières années. C'est ce qui ressort de cette étude d'un cabinet spécialisé dans la vie en entreprise. Ça va du collègue qui parle trop fort au téléphone, aux toilettes sales, et tout le monde est d'accord pour dire que le problème, ce sont toujours les autres. Bénédicte Tassard.
Mais qu'est-ce qui vous gêne le plus chez vos collègues?
Dès le matin, la mauvaise humeur, les gens qui sont très fermés.
Quand on a des collègues qui ont la voix qui porte, ou il y en a, c'est pareil, quand ils décrochent le téléphone, ils montent de 2 octaves. Je pense qu'ils doivent croire qu'en face, la personne ne les entend pas.
Quand on travaille en open space, les collègues qui passent et qui cognent la chaise derrière sans arrêt et sans s'excuser.
Veuillez laisser cet endroit comme vous l'avez trouvé, par exemple. Au niveau hygiène, je dirais que c'est le point noir, en fait.
Pour Xavier Alas-Luquetas, fondateur du cabinet Eléas, 3 raisons expliquent nos mauvais comportements au bureau. L'éducation plus laxiste, la crise qui exacerbe les individualismes et puis les nouvelles technologies.
On vit dans un paradoxe qui est qu'on est plus proche des personnes au travers des réseaux sociaux, au travers de l'Internet, etc., qu'on est proche et attentif à la personne qui est assise à côté de vous, qui vit à côté de vous. Et ça, les personnes, d'une certaine manière, le vivent assez mal.
Alors tout ça, ça peut s'améliorer, mais il faut que l'exemple vienne des chefs.
Bénédicte Tassard, oui.
Et ça, alors là, ça vaut une ou 2, 10 ou 100 réactions. Au 3210, n'hésitez pas. Allez, direction Brésil.
RTL, a rádio do Brasil.
C'est demain qu'on entre dans le dur avec le premier match du mondial, Jérôme.
Ce sera Sao Paulo, Brésil-Croatie. Il y a quelques heures, à la télévision brésilienne, la présidente Dilma Rousseff a fait dans le lyrisme « Amis du monde entier, venez en paix », c'est ce qu'elle a dit à la télévision. Le Brésil, comme le Christ rédempteur, a les bras ouverts pour vous accueillir tous. On va prendre des nouvelles de nos étudiants français qu'on suivait ici hier matin et qui n'avaient pas réussi à approcher les Bleus à leur arrivée au Brésil. Grâce à RTL, qui a contacté la Fédération française de football, ils ont pu obtenir des places pour assister au premier entraînement de l'équipe de France il y a quelques heures. Sylvain Charlet.
Petit rappel pour commencer, lundi soir, devant l'hôtel des Bleus, Youssef est dépité.
Ça aurait été quand même plus cool qu'il s'arrête pour nous parler un peu.
Mais hier après-midi, grâce à l'intervention de la fédération, c'est donc dans une des tribunes du stade du Santa Cruz qu'on le retrouve toujours aussi exigeant.
Là, on est quand même assez loin des joueurs. Voilà quoi.
Pour atteindre l'objectif final, approcher les Bleus et immortaliser la rencontre, Youssef et ses amis vont donc tenter un dernier coup de poker. Attendre les joueurs français, sagement installés derrière des barrières, à une trentaine de mètres de leur bus. L'ambiance au milieu des fans brésiliens est bon enfant.
Les enfants de la patrie et les deux des gueules, t'arrivais contre nous.
Puis soudain, c'est l'effervescence. Morgan Schneiderlin, Blaise Matuidi, Hugo Lloris ou encore Michael Landreau sortent du vestiaire et viennent à leur rencontre.
Ça fait plaisir d'aller voir.
Youssef ne sait plus où donner de la tête, les autographes et les photos s'enchaînent, nos étudiants français sont sur un nuage.
J'ai pris des photos avec pas mal de joueurs. Bah, pour une première journée d'entraînement, je suis satisfait.
Merci la Fédé, mais surtout,
merci RTL.
Et oui, Sylvain Charlet, l'un des envoyés spéciaux d'RTL au Brésil, qui a eu la chance lui aussi.
Louis Bodin.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Comment allez-vous Louis Bodin?
Ah bah très bien.
C'est là, tout petit peu moins chaud qu'hier.
C'est un peu moins chaud, petit peu moins orageux, mais enfin il y en aura encore, surtout à proximité des reliefs et puis l'amélioration qui gagne les régions de l'Ouest, près de la Méditerranée. Donc ça ira un petit peu mieux aujourd'hui avec des températures plus raisonnables, mais toujours très très estivales.
Oui, il fait bon.
Ah, très,
c'est
très
même bon. Très bon. Prévision complète de Monsieur Louis à 7h28.
RTL 7h11.
Et à suivre les révélations du patron de l'antiterrorisme français.
Laurent Bazin jusqu'à 9h30.
RTL Matin.
RTL 7h14.
Document exceptionnel ce matin sur RTL. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Le patron de la lutte antiterroriste parle donc ce matin. C'est vous qui l'avez rencontré. Et ce que révèle ce policier de très haut niveau, patron de l'UCLAD donc, c'est qu'Al-Qaïda a installé ses camps d'entraînement en Syrie pour frapper l'Europe demain.
Oui, Loïc Garnier dirige l'unité de coordination antiterroriste. Sa parole est rare. Je l'ai rencontré hier dans son bureau parisien. Et il révèle en effet que des djihadistes européens, dont plusieurs Français, leur nombre reste confidentiel, sont aujourd'hui entraînés en Syrie dans le but unique de commettre des attentats en Europe. On l'écoute.
Certains de ces individus vont être pris en charge par d'anciens cadres d'Al-Qaïda qui ont migré depuis les zones tribales en Afghanistan vers le nord de la Syrie. Là, ils vont sélectionner des jeunes, ils vont les entraîner dans le but, et le but unique, de mener des attentats en Europe. Alors pour cela, ils vont recruter des jeunes qui seront linguistiquement compatibles avec le pays visé. Et des jeunes qu'ils vont sélectionner comme étant, j'allais dire, les plus aptes psychologiquement à se noyer dans une population occidentale avec toute la détermination nécessaire à la commission d'un acte kamikaze, d'un attentat. On n'est plus du tout dans le combat contre Bachar el-Assad, on est de retour à la dialectique traditionnelle d'Al-Qaïda, le djihad individuel, là où tu es, frappe. Frappe l'infidèle, frappe le mécréant.
Est-ce qu'on sait si certains d'entre eux sont déjà revenus en France ?
Ils ne sont pas revenus en France. Mais c'est évidemment notre plus grande inquiétude. Nous faisons partie des cibles préférées d'Al-Qaïda et ses organisations. La menace est réelle.
Voilà, ces Français programmés pour commettre des actes kamikazes essaieront bel et bien de rentrer, dit le patron de l'antiterrorisme. Les policiers ne savent pas encore si le tueur de Bruxelles, Medine Mouche, était le premier d'entre eux, mais ces nouveaux soldats d'Al-Qaïda viennent s'ajouter aux centaines de djihadistes européens, dont certains sont déjà rentrés et certains avec des projets terroristes individuels.
Mais on a les moyens de les empêcher de frapper ?
Eh bien, c'est un enjeu crucial, selon Loïc Garnier. L'antiterrorisme a jeté toutes ses forces dans la bataille, mais cela est tout juste suffisant.
Sans la vigilance de nos services, oui, il y aurait probablement eu des actes extrêmement graves commis sur le territoire français. Il ne reste pas moins que pour surveiller 24 heures sur 24 une personne, cela suppose une vingtaine de fonctionnaires. Donc si vous multipliez avec le nombre d'individus potentiellement surveillables, plusieurs centaines, c'est impossible. Donc il faut ne rien laisser tomber complètement, mais affecter les moyens sur les individus les plus dangereux. Ça n'est pas l'apanage des services spécialisés, c'est l'affaire de tous. La preuve, Monsieur Nemouche a été interpellé lors d'un contrôle douanier. Tout le monde doit être sensibilisé à toutes les menaces et aux moyens d'y faire face.
Voilà, et pour tenter de faire face, le gouvernement se prépare aussi à renforcer les lois antiterroristes dès cet été, vous le savez, notamment pour combattre la radicalisation sur Internet.
Interview exceptionnelle du patron de la coordination antiterroriste française, donc signé Thomas Proutot pour RTL ce matin.
RTL Matin.
Nous sommes mercredi le 11 juin, il est 7h17.
À suivre Christian Menanteau. Qu'est-ce qui nous attend avec le PLF Trucmuche? Le cycle, c'est compliqué, vous allez comprendre tout de suite, on va parler de vos impôts.
RTL Matin.
RTL, 7h20.
Bon, alors je vais dire le sigle comme il est. PLFR, projet de loi de finances rectificative, ça arrive en Conseil des ministres ce matin. Ça veut dire notamment les fameuses mesures prévues pour alléger les impôts des plus modestes. On parlait de 2 millions de personnes, Christian, ce chiffre, il est confirmé?
Eh oui, maintenant que nous avons les textes qui précisent les contours de ces réductions d'impôts annoncées à la mi-avril par Manuel Valls, on peut dire qu'il y aura des baisses d'impôts pour de très nombreux ménages en France. Vous vous souvenez que la première vague des bénéficiaires concernait 1,8 million de ménages. Alors pour eux maintenant, c'est acquis, ils sont à 100% sûrs de sortir de l'impôt dès cette année. Et pour faire bonne mesure, câliner la gauche, flatter les sondages, le gouvernement va aussi alléger la facture des contribuables les plus modestes en corrigeant le barème de l'impôt de l'inflation et en instaurant une décote nouvelle qui devrait diminuer mécaniquement de 350 euros la facture de ceux qui sont juste au-dessus du seuil d'imposition. Un seuil qui, par ailleurs, a été remonté de 4% pour élargir le nombre de ces bénéficiaires d'exonérations diverses et variées. Vous voyez,
donc au total, on en est à...
Eh bien, on en est à 3,2 millions de ménages. D'accord. Pour qui vont bénéficier du FIS. Vous voyez, donc il y a beaucoup de Français qui sont favorisés dans cette affaire.
Manuel Valls avait dit à la télévision, y compris la classe moyenne. C'est vrai, elle va être soulagée, la classe moyenne.
Oui, alors là, c'est un peu plus compliqué. Parce que si on positionne la classe moyenne à trois fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3600 euros, 2014 ne sera pas encore l'année du répit pour eux. Si on éclaircit un peu la confusion des déclarations successives au sein du gouvernement, eh bien, il faut savoir que ces contribuables vont encaisser d'abord plein pot la refiscalisation des heures supplémentaires. C'est le noyau dur des heures supplémentaires à la classe moyenne. Ils vont ensuite subir la suppression de la réduction pour les contrats de santé collective, ce qu'on appelle les complémentaires médicales. C'est aussi la fin de la majoration de 10% des pensions pour les retraités qui ont eu trois enfants ou de la demi-part fiscale pour avoir élevé seul un enfant. Bref, la liste des réaménagements est longue et ces mouvements n'épargneront pas les classes moyennes. Alors, c'est pas pour les punir, c'est tout simplement que notre système fiscal repose sur une construction très particulière. Beaucoup d'impôts sur peu de ménages. On sait que la moitié des contribuables français échappe à l'impôt sur le revenu. Le fisc doit donc se rattraper sur l'autre moitié. Et bien sûr, la classe moyenne en fait partie.
Au total, pause fiscale ou pas pause fiscale?
Alors, la pause fiscale, elle est indéniable pour les entreprises. Entre la facture fiscale et celle des charges sociales, la note des entreprises va chuter de 21 milliards. Oui, encore pour tous ceux qui étaient à la marge de la première tranche de l'impôt sur le revenu, non pour tous les autres. Les contributions au trésor public de cette catégorie vont augmenter de 13% entre 2013 et 2014. C'est quand même une ponction de 10 milliards.
Votre note, Christian?
14 sur 20 à Arcos, c'est la dernière marque française d'électronique grand public. Eh bien, c'est elle qui va fournir des tablettes à 18 000 clubs amateurs de la Fédération française de foot. Les feuilles de match, maintenant, elles seront en direct sur Internet, stockées dans des nuages numériques.
Les
vous
clouds,
voyez,
les
le fameux cloud. Alors, il ne manque plus qu'à avoir des ballons avec des petites puces pour savoir qui marque le but.
Ah,
et
mais ça, c'est à l'étude par la FIFA, justement. Le ballon avec la puce intégrée, vous ne croyez pas si bien dire.
Ah, bah, très bien, alors.
Christian Menanteau, ça vaudra une autre note, ça.
C'est à la question Éco avec Passe Jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises. Contactez-nous au 0805 0805 20.
Vos témoignages et votre expertise sont au cœur de l'info d'RTL.
Prenez la parole sur RTL.
Il est 7h23, appelez Laurent Bazin au 3210.
On espère que vous en tirez ce matin pour aller au boulot entre les grèves et notamment la grève SNCF. On est à un train sur trois en moyenne, c'est quand même pas beaucoup. Je prends la ligne D et B du RER, me dit un francilien qui s'appelle Bernard. La ligne de la honte, dit-il. Les grèves, les suppressions de trains, les retards sont notre quotidien. On paye cher pourtant pour ce service. Et puis alors l'autre sujet qui vous fait réagir ce matin, c'est cette étude qu'on vous dévoilait tout à l'heure. Un salarié sur deux se plaint des bureaux ou des espaces travail, salles en désordre, bref, de l'incivilité au bureau. C'est un problème, Isabelle, pour vous, ça ?
Bonjour, Laurent.
Bonjour à vous.
Oui, c'est un problème, notamment sur le bonjour du matin, comme nous venons de faire actuellement. Ouais. Pour moi, je suis directrice d'un service et il est très important que tous les matins en arrivant, la première chose, c'est bonjour avec le sourire, en donnant le prénom de la personne en plus. Ça met tout de suite une bonne humeur, enfin, ça donne une ambiance différente.
Mais Isabelle, si vous le faites pas, on se dit pas bonjour spontanément ?
Non, pas tous.
Ah ouais.
Non, parce que il y a des gens qui arrivent peut-être avec leurs problèmes personnels ou qui sont pas forcément contents parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une journée difficile, comme ça peut arriver, ils vont à leur bureau et puis à un moment donné, dans la journée, ils vont se dire, tiens, bonjour, parce que ça m'arrive quand j'ai quelques retardataires de revenir en disant, bah tiens, t'es arrivé, bonjour.
Les retardataires du bonjour.
Ah oui, les retardataires du bonjour,
ça,
mais je les coince toujours.
Ouais. Et qu'est-ce qui rend ce dialogue aussi compliqué ?
Pour moi, ce qui rend ce dialogue compliqué, c'est très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de stress qui s'est mis dans la société actuelle par divers événements. La course effrénée aussi. On veut faire énormément de choses. Alors on a beaucoup à faire chez soi, en famille, etc. Au travail, on demande beaucoup quand même à nos collaborateurs aussi. Et peut-être qu'il y a aussi un problème d'éducation de base. Je suis désolée de le dire, je n'aime pas juger, mais il y a un problème d'éducation de base. Moi, j'ai un petit garçon de 10 ans et demi qui dit bonjour tout le temps à tout le monde et on me dit oh, qu'est-ce qu'il est bien élevé. Ouais. Alors, il dit simplement bonjour. Ouais.
Merci Isabelle de votre petit coup de fil depuis Fondette en Indre-et-Loire. Belle journée à vous.
Ou Laurent, bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
RTL, il est 7h26. Entre 16h.
Bonjour les grosses têtes.
Et 18h, exactement. Vous l'entendrez dire bonjour comme tous les jours, c'est Philippe Bouvard. Les grosses têtes en folie aujourd'hui, c'est mercredi. Et Philippe a choisi un thème. Nous sommes tous des bouffeurs de micro. Et tout de suite, Bernard Mabille.
Tant pis Philippe si j'ai perdu femme et enfant, mais je préfère être là à votre côté.
Oh.
Ramant sur ses foutus coups de sang, répondant à des questions à la con. On appelle ça le respect de l'auditeur, car nous sommes en direct, mesdames, messieurs. Et ne vous y trompez pas, si vous entendez cet après-midi encore 6 plus 3 égale 9, 9 maillots, n'allez pas croire à une rediffusion. C'est simplement que notre gentil chevalier est monté en boucle. Et qui, quand il croit en tenir une bonne, ne la lâche plus.
Et comme il est très poli, Philippe Bouvard, il dit aussi... Au revoir et à demain.
Mais bien sûr.
Voilà, tous les jours. Retrouvez aussi les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.fr.
Bonjour à Sébastien, livreur de presse nationale du côté de Berck-sur-Mer, qui me signale qu'il y a des nuages et 11 degrés seulement. Ça va monter un peu, me dit Louis Bonin. Tranquille ce matin, Louis Bonin.
RTL Matin.
Alors Louis Bodin, j'ai 17,4 degrés à Nangis en Seine-et-Marne et je le dis parce que l'auteur du SMS souhaite un bon anniversaire à sa Sophie chérie et
oui,
son épouse.
17 degrés, donc j'en c'est profite. Vrai, il fait 12 ce matin dans la plupart des régions, on a plus de 20 degrés même dans les régions de l'Est, en pleine d'Alsace, près de la Méditerranée, j'ai même 21 degrés en ce moment du côté de Nice, donc la douceur est toujours là, avec beaucoup de nuages en ce moment entre la région Poitou-Charentes et les frontières du Nord-Est, avec même quelques pluies d'ailleurs pas très loin de Poitiers ou encore du côté de la plaine d'Alsace. Alors au fil des heures, tout cela va évoluer avec de nouveau des orages dans l'Est où on a du soleil ce matin, principalement autour des reliefs Pyrénées, Massif central, des Alpes à l'Alsace, donc surtout en montagne. Et puis à l'inverse, dans l'Ouest, on a encore quelques nuages ce matin, ça ira de mieux en mieux avec de plus en plus de soleil de la Bretagne à l'Île-de-France, près de l'Atlantique et en Méditerranée, là aussi le soleil résistera. Côté température, ça va grimper cet après-midi, notamment dans l'Ouest où ça sera plus élevé qu'hier, entre 25 et 30 degrés dans la plupart des régions, 23 degrés près de la Manche et on ira jusqu'à 34 degrés près de la Méditerranée.
Dans votre Bretagne que vous avez pris ces belles couleurs?
Ah exactement.
Magnifique.
Il fait très bon.
Il est 7h30 sur RTL.
RTL Matin.
Avec Laurent Bazin.
Avec Adeline François. Bonjour Adeline.
Bonjour Laurent.
Et voilà une petite musique qu'on ne va pas beaucoup entendre aujourd'hui.
Oui, la grève à la SNCF s'annonce comme une des plus dures de ces dernières années. Un TGV sur deux ou trois selon les régions, un TER sur trois. On sera en direct dans un instant de la gare de Nancy. Le débat sur l'euthanasie au prétoire. Le procès du docteur Bonne-Maison s'ouvre aujourd'hui à Pau. Il est poursuivi pour avoir abrégé la vie de 7 de ses patients à l'hôpital de Bayonne. Dans ce journal également, un père sans nouvelles de sa fille, Jean-Marie Le Pen, est de plus en plus brouillé avec Marine Le Pen depuis l'affaire de la fournée. Et puis le foot à la veille du coup d'envoi du mondial, premier toucher de balle pour les Bleus en terre brésilienne hier soir. Il y a de la joie, a dit Didier Deschamps.
7h40, l'édito avec Elisabeth Martichoux ce matin. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Laurent.
Qu'allumer de la paix à l'UMP, il faut croire à la paix des braves?
Ben provisoirement, oui, mais il y a des perdants et des gagnants dans cette partie, je vous dirai lesquels.
Très bien. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Laurent.
Vous recevez-vous le député UMP, ancien ministre Xavier Bertrand, qui mâchait pas ses mots ces derniers jours, hein?
C'est l'un des plus virulents contre Nicolas Sarkozy et il nous dira ce qu'il pense de la solution arrêtée hier soir.
Le 7h30, Adeline François.
RTL Matin.
D'abord, on va prendre la direction de Pau, où s'ouvre tout à l'heure le procès du désormais célèbre docteur Bonne-Maison.
Urgentiste à Bayonne, Nicolas Bonne-Maison est poursuivi pour empoisonnement sur personnes vulnérables. Il est accusé d'avoir abrégé la vie de 7 de ses patients entre mars 2010 et juillet 2011. Il avait fini par être dénoncé par des infirmières. Mathieu Delahousse, vous allez suivre ce procès devant les assises de Pau. Ce sera le procès de la fin de vie, car ce qui frappe dans cette affaire, c'est en fait le nombre de soutiens au docteur Bonne-Maison. Une seule famille a porté plainte contre lui. Les proches des autres patients ne lui en veulent pas.
Oui, lorsque l'affaire éclate en août 2011, un homme prend la parole. Pierre Buillet, dont l'épouse Marguerite est morte à l'hôpital, affirme alors sur RTL qu'il n'en veut pas au docteur Bonne-Maison.
À mon âme et conscience, je lui dis, docteur, je ne veux pas qu'il y ait d'acharnement thérapeutique. J'ai embrassé mon épouse, je suis parti, et le temps qu'on arrive, que j'arrive chez mon beau-frère, à Cabreton, elle était morte. Si quelqu'un a fait, à la limite, on ne veut pas le savoir. Et si je rencontre demain, docteur, je lui serrerai la main.
Une famille sur les 7 cas retenus par la justice se constitue pourtant partie civile. Cette famille explique aux enquêteurs n'avoir eu aucun échange avec le docteur Bonne-Maison qui aurait donc décidé seul. La justice, dès lors, enquête sur les fragilités du médecin. Ses amis que nous rencontrons à l'époque en 2011 réfutent cette thèse, comme Francis Gastambide.
Moi, j'ai pas l'impression que Nicolas est fragile. Moi, ce que je retiens de Nicolas, c'est que c'est quelqu'un qui adore son métier, qui vit de sa passion et de son métier. Et c'est quelqu'un qui agit en son âme et conscience, qui pense avoir bien fait les choses.
Les expertises réalisées depuis ont continué à insister sur ces failles. Isolé, peut-être dépassé, Nicolas Bonne-Maison a devant les juges revendiqué deux choses. Ne pas être un militant de l'euthanasie, mais avoir agi pour le bien des familles.
Mathieu Delahousse, à Pau pour RTL.
RTL Matin, 7h34.
Pas beaucoup de trains ce matin en gare. La grève des cheminots est très suivie.
Oui, 46% de grévistes dans toute la France, 70% en région parisienne, où seul un TER sur trois et un transilien sur trois circulent. Un train tous les quarts d'heure sur le RER B en ce moment, un toutes les demi-heures ensuite après l'heure de pointe. Un train sur trois sur les lignes C, D et E. Pour les TGV maintenant, on aura seulement un train sur trois dans l'ouest, le sud-est et sur les liaisons de province à province. Dans le nord et l'est, a priori, c'est un TGV sur deux. On va voir comment ça se passe du côté de Nancy avec vous, Samuel Goldschmidt.
Alors c'est même pire, j'ai compté 4 TGV pour Paris au lieu de 12 habituellement, pas facile. Surtout que généralement les voyageurs n'avaient pas prévu de prendre le train pour le simple plaisir d'observer les paysages.
C'est pour rencontrer des amis qui viennent d'Australie, donc c'est un peu pas de chance malheureusement. Ça se remet un peu complexe, surtout pour leur retour, quoi, parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais essayer de changer le train pour prendre le train d'avant, pour éviter de rester bloqué là-haut ce soir. Quoi.
Pour y aller déjà, ça ira?
Pour y aller, ouais, c'est bon, il y a un train à 7h16. Donc ça va bien se passer, mais c'est plus pour le retour que j'ai une crainte, quoi.
Pour le trafic local, c'est pire. 9 TER pour le Luxembourg ou Metz au lieu de 33. Là encore, les voyageurs ont de bonnes raisons de ne pas louper les rares trains.
Pour ma visite médicale pour devenir gendarme. Je ne peux pas y aller en voiture, je n'ai pas le permis. Du coup, je me suis levée tôt le matin, extra pour prendre le train. Pour le moment, ça va.
Le retour?
On verra, je n'ai pas encore regardé.
À noter que les gilets rouges sont très actifs, eux, pour assister les voyageurs.
Merci Samuel Goldschmidt en direct de la gare de Nancy pour RTL. Alors à cette grève à la SNCF s'ajoute aujourd'hui la mobilisation européenne des taxis contre la concurrence déloyale des VTC. On aura des manifestations à Lyon, Marseille, Nice et Paris où les taxis vont converger après s'être rassemblés tôt ce matin à Orly et Roissy. Notez qu'il y a déjà beaucoup de bouchons en région parisienne en ce moment. On relève en ce moment 262 km de bouchons cumulés.
N'hésitez pas à me donner des nouvelles de ce que vous vivez au 32-10, que vous soyez dans les bouchons ou sur les quais de gare.
RTL Matin.
RTL 7h36, Adeline François, Laurent Bazin.
Tension à son comble au Front National entre les Le Pen.
Marine Le Pen a décidé hier que le site internet du FN n'hébergerait plus le journal de bord de Jean-Marie Le Pen. C'est dans cette chronique qu'il avait parlé de la fameuse fournée d'artistes le week-end dernier. Un coup de poignard dans le dos pour le président d'honneur du Front National qui essayait quand même d'en rire hier soir.
Nous ne sommes pas fâchés, enfin, en tous les cas, officiellement. Je crois qu'on m'a fait une mauvaise manière. On peut s'écarter de moi, mais on ne peut pas m'écarter des autres.
Jean-Marie Le Pen, joint pour RTL par vous. Yaël Gauze, bonjour.
Bonjour.
Yaël, question ce matin. À qui profite le clash ?
Comme le dit un proche de Marine Le Pen, de ce mal peut sortir un bien. Cette polémique permet de fixer la ligne rouge et cette clarification, c'est la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen. Désormais, quand il voudra s'exprimer, il ne sera plus la voix du FN, ce sera jeanmarielepen.com. Sa fille ne pourra pas le faire taire ni le destituer, il est président d'honneur à vie. Mais cette exclusion du site internet, c'est déjà une révolution. D'ailleurs, l'isolement du père est total. Sa petite fille, Marion Maréchal, ne prend même pas sa défense et le député Gilbert Collard lui conseille de prendre sa retraite. Marine Le Pen veut-elle tuer le père ? C'est déjà fait, commente un dirigeant du Front. Le congrès, prévu fin novembre, doit mettre en scène cette page qui se tourne, montrer le visage d'un parti qui aspire à gouverner. Pour l'heure, le dérapage du père ne facilite pas le travail de la fille à Bruxelles. Marine Le Pen a coupé son portable, pas question d'entrer à nouveau dans la polémique au moment où se joue la création inédite d'un groupe parlementaire. Dans les couloirs, il se murmure que les négociations seraient sur le point d'aboutir. Ce serait pour Marine Le Pen le scénario idéal pour enterrer les vieux démons ressuscités par son père.
Yaël Gauze du service politique de RTL. François Hollande, lui, remanie ses équipes en profondeur à l'Élysée avec une demi-douzaine de départs de son cabinet, dont celui de son conseiller économique et financier Emmanuel Macron. Il sera remplacé par Laurence Boone. On note aussi l'arrivée à l'Élysée de Nathalie Yanetta, la journaliste de Canal+, qui sera désormais conseillère pour le sport et la jeunesse.
Allez. RTL 7h38.
À l'étranger, nouvelle fusillade aux États-Unis.
Oui, un élève a été tué et un enseignant blessé tout près de Portland. Le tireur, qui était à un lycée, a retourné l'arme contre lui. Barack Obama a appelé cette nuit les Américains à un examen de conscience contre les armes à feu. Le foot, premier entraînement collectif pour les Bleus hier soir au stade Santa Cruz de Ribeiro Preto. 10 000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes pour y assister. Demain, c'est le jour J, avec la cérémonie d'ouverture et le premier match de ce mondial à Sao Paulo, Brésil-Croatie. La fièvre monte du côté des supporters français restés dans l'Hexagone. Comment s'organiser, par exemple, pour ne rater aucun grand match quand on travaille ? C'est la France des Bleus, notre rendez-vous à 7h30. Et c'est maintenant.
RTL, la France des Bleus.
La France des Bleus s'assoit aujourd'hui dans un fauteuil un petit peu particulier. Un fauteuil de dentiste.
Vous ressentez quelque chose ?
Catherine est l'une des plus ferventes supportrices de l'équipe de France. Côté tribune, elle comptabilise une centaine de matchs des Bleus. Pas question de manquer une miette de ce mondial brésilien.
Ah, je vous préviens, au mois de juin, il ne faudra pas essayer de vous faire soigner pendant les grandes affiches. Hein. Je ne serai pas de service.
De l'autre côté de la fraise, assis dans son fauteuil, Georges avoue faire partie des déçus de cette génération Ribéry.
Moi, pour résumer mon statut de supporter, j'ai envie qu'il gagne avec la manière ou qu'il perde avec la manière.
Tous deux espèrent donc retrouver des Bleus exemplaires au Brésil.
L'équipe de France, c'est un échantillon de la France. L'état d'esprit devrait être, pour les joueurs, un honneur.
Je vais vous aider à garder la bouche bien ouverte. On a eu aussi ces dernières années l'équipe de France qu'on mérite, hein, quelque part. Ils commencent, ils ont des contrats mirifiques, ils n'ont pas encore le permis de conduire. Didier Deschamps, il a commencé avec une 2 chevaux, hein, et il gagnait 1500 francs par mois au début. Il n'y a plus le respect de la moindre hiérarchie.
Ça aurait été bien de vous avoir à la place de Dominique.
L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui.
Ah, ils ont pris le pouvoir et nous on a vu ça effaré quoi.
Après une catastrophe, les temps meilleurs reviennent. Mais il faut du travail.
Moi j'y crois. Et je veux pas répéter l'erreur que j'ai fait avec Jacquet. Je crois en Deschamps et je veux qu'il y ait le même dénouement.
Disons que moi je suis moins optimiste ou plus réaliste peut-être. J'espère me tromper. Hein.
Vous avez la jambe pour dire ?
Non.
Je vous l'avais promis.
Sinamir. Sourire et la France des Bleus, Romain Parot à la réalisation, Chantal Gramin pour les archives.
Ça veut dire, Adeline, qu'on peut avoir la fraise, oui, et la banane.
Et la banane. Et,
oui.
Et la pêche aussi.
Et la pêche.
Et la pêche éventuellement. Louis Baudin.
Et le soleil.
On a du soleil.
Oui, exactement. Hein, du soleil ce matin dans beaucoup de régions. Cet après-midi, il résistera facilement dans le nord-ouest, dans l'ouest, près de la Méditerranée. Un peu moins dans l'est, après une matinée ensoleillée. Les orages vont reprendre, notamment à proximité des reliefs.
À tout à l'heure, 7h58 pour vos prévisions complètes.
RTL, 7h41.
Et tout de suite, l'édito d'Elisabeth Martichoux. Ce matin est le calumet de la paix qui fait tousser certains à l'UMP.
RTL Matin.
RTL, c'est 7h43.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Bonjour à vous.
On s'attendait à une nuit des longs couteaux au bureau politique de l'UMP hier soir. Finalement, tout le monde est sorti avec le sourire, alors plus ou moins forcé. Et l'idée, en tout cas dans les mots, que le climat est à l'apaisement. Il faut croire à cette paix des braves.
Ben provisoirement, oui Laurent. La prochaine étape, on le sait, elle est décisive, ce sera le congrès. Et le vote des militants à l'automne qui détermineront la ligne du parti pour 2017. En attendant, oui, une solution a été trouvée qui écarte le spectre de l'explosion. Vous savez, il y avait un risque réel. François Baroin semblait dramatiser à l'excès en évoquant une menace de mort planant sur l'UMP, mais c'est monté très haut en température. Depuis la démission forcée de Jean-François Copé le 27 mai, l'ambiance était proprement irrespirable. Certains cadres, qui ne sont pas des enfants de cœur, hein, qui en ont vu des vertes et des pas mûres à l'UMP et même au RPR, c'est vous dire, se disaient stupéfaits du degré de haine manifeste entre les clans. Copéiste contre Filloniste, Filloniste contre Sarkozyste, droite forte contre droite modérée, la vacance du pouvoir à la tête du parti a agi comme un révélateur de conflits non purgés, parce que comme chacun le sait, rien n'a été réglé depuis la défaite de 2012. Mais Laurent, il ne faut jamais désespérer de l'espèce humaine. Selon la formule consacrée, le pire n'est jamais sûr, et ce compromis imaginé avant la réunion du bureau politique, adopté à l'unanimité moins une voix, celle de Michel Tabarot, qui s'est abstenu. Ce compromis permet de faire baisser la fièvre, d'envisager une conduite du parti KAKA jusqu'à l'automne. Et franchement, ça aurait pu être pire.
Dans cette affaire, il y a forcément des gagnants et des perdants. Qui a gagné, qui a perdu?
Le grand perdant, c'est Jean-François Copé, bien sûr. Dimanche à minuit, il sera déchu de son titre de président. Il va se retirer dans sa ville de Meaux, tenter une diète médiatique et surtout réfléchir aux meilleurs moyens de revenir. Il ne faut pas s'y tromper, il n'a renoncé à rien à terme. Le premier gagnant, c'est le bon sens. La sagesse a prévalu. Une victoire pour l'UMP avec en prime une image d'unité, ce n'est pas un luxe. Les autres bénéficiaires, ce sont les quatre acteurs en haut de l'affiche. Un, Alain Juppé, roi des sondages, qui a élevé la voix hier pour imposer sa solution face à quelques récalcitrants dont Nadine Morano. Il renforce son autorité. Deux, François Fillon, c'est dans son bureau qu'a été élaborée la solution en présence de Jean-Pierre Raffarin, c'est le troisième, qui prend de la hauteur, se situe au-dessus de la mêlée, ça ne peut pas nuire à son ambition de présider le Sénat. Et quatre, Luc Chatel, Bombardier, secrétaire général du parti, c'est un poste clé.
Et Nicolas Sarkozy?
Avait-il intérêt à ce compromis? Ben, je dirais oui, il avait objectivement intérêt à une sortie de crise. S'il veut prendre le parti, ce ne doit pas être un chandruine. Revenir à la tête d'une UMP en lambeaux, c'est inconcevable. L'ex-président attendait la réunion d'hier qu'elle ne mette pas d'huile sur le feu. Je dirais non aussi, parce que les sarkozystes ont perdu une bataille tout de même. Ils auraient préféré que Luc Chatel s'installe dans le fauteuil de président et non pas celui de secrétaire général. Chatel président, ça aurait un peu contrebalancé le poids des trois rois mages, des trois pachas qui règnent désormais sur l'UMP, qui veulent étendre leur mainmise sur le parti, et surtout pour messieurs Fillon et Juppé, gêner le comeback de l'ancien président. Nicolas Sarkozy, avait-il sérieusement envisagé de revenir là tout de suite maintenant? Non. Et ceux qui entretenaient cette idée visaient surtout à animer la flamme. En revanche, s'il revient en septembre, il doit construire ce retour. Ce n'est pas en disant « pousse-toi là que je m'y mette » qu'il convaincra les Français. Ils ne comprendraient pas la démarche. Ça se voit d'ailleurs dans les sondages. Il doit d'abord clarifier son projet, revenir sur un socle idéologique pour se réinstaller dans le paysage. Mais ça reste compliqué pour lui, entre autres à cause du calendrier judiciaire, comme cela reste compliqué pour l'UMP, certes. Pacifié ce matin, Laurent, mais pas encore en ordre de bataille.
Elisabeth Martichoux.
RTL Matin.
Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le député-maire UMP de Saint-Quentin et ancien ministre, Xavier Bertrand.
Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
L'UMP, privé de président depuis la démission de Jean-François Copé, est maintenant doté d'un secrétaire général intérimaire en la personne de Luc Chatel, lequel est supervisé par un triumvirat Juppé-Fillon-Raffarin. Ce sont les mesures qu'a prises le bureau politique de l'UMP hier soir. Êtes-vous satisfait, Xavier Bertrand?
Oui, c'était essentiel de trouver une solution hier. Si nous n'avions pas trouvé de solution, c'est ce que j'ai dit à un moment lors de cette réunion du bureau politique, on pouvait à nouveau être en situation d'implosion et de mort de l'UMP. Il faut absolument aujourd'hui qu'on se redresse. La survie de l'UMP est toujours aujourd'hui en question. Il va falloir de la bonne volonté, c'était dit à l'instant, moins de haine entre certains dirigeants.
Pas facile.
Pas facile, c'est vrai. Un peu plus le sentiment à la tête de l'UMP que le sentiment qu'il y a à la base de l'UMP chez les adhérents qui, eux, ont envie de rester ensemble, ont envie de réussir ensemble, de reconstruire une opposition. Un peu moins d'arrière-pensée. Je ne suis pas un naïf, mais je sais pertinemment que si on ne comprend pas, que l'enjeu pour nous, c'est s'unir ou mourir.
C'est une défaite, ce qui s'est passé hier soir pour Nicolas Sarkozy et ses partisans?
Oh, hier, clairement, l'UMP n'a pas eu besoin de Nicolas Sarkozy pour trouver une solution. On sait trouver des solutions sans Nicolas Sarkozy.
Il vous qualifie, si l'on en croit le Parisien d'hier, Nicolas Sarkozy, de médiocre. Ce n'est pas la reconnaissance qui l'étouffe, a-t-il dit à votre propos?
Il n'a pas toujours dit ça, me concernant. Je ne sais pas s'il a dit cette phrase.
De quoi? La médiocrité ou le manque de reconnaissance? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit?
Les deux.
Les deux, d'accord.
Les deux. Mais cette phrase, il est tout à fait capable de l'avoir prononcée.
Elle vous fait mal?
Capable. Écoutez, si cette phrase a été prononcée, c'est du mépris, à mon égard. Moi, j'ai toujours du respect pour l'ancien président.
Pourquoi vous avez coupé avec lui?
Tout simplement parce que j'ai le sentiment qu'il nous faut aller au bout des causes de l'échec en 2012. Nous avons perdu en 2012, alors que nous avions suscité une espérance sans pareil. J'étais le porte-parole de la campagne en 2007. Ce que je sais aussi, c'est qu'il faut ouvrir une nouvelle page de l'UMP, écrire une nouvelle page de l'UMP.
Sans
et on
Nicolas
ne peut pas
Sarkozy.
Dire aujourd'hui que l'on va recommencer comme hier. Les partis d'hier, le fonctionnement d'hier, je n'y crois pas. La France est en train de changer et l'UMP doit absolument changer. Surtout après ce que nous venons de connaître. Et puis je vais plus loin. C'est la question de la présidence de l'UMP à partir du Congrès à l'automne prochain. Je l'ai dit et je le répète, toutes celles et ceux qui sont concernés par ce scandale sans pareil, ce scandale Big Malion, doivent se tenir à l'écart de l'UMP dans l'intérêt du parti. L'UMP ne peut pas vivre, dans les mois qui viennent, au rythme des convocations judiciaires, au rythme des enquêtes de police, et ceux qui sont à la tête de l'UMP ne pourront pas passer leur temps à répondre aux questions des journalistes sur ce qui se passe. Ils auront une vocation, une. Reconstruire, rénover, refonder notre famille politique et puis surtout, être enfin la première force d'opposition à François Hollande. On a un pays aujourd'hui qui n'est pas gouverné. On a un pays dans lequel les Français qui viennent faire leur déclaration d'impôt sont à deux doigts de la révolte fiscale. Et ils ont besoin d'une UMP qui aujourd'hui n'est pas perçue comme le principal opposant à François Hollande. Le score des Européennes, moi, m'a profondément marqué. Il y aura un avant et un après européenne en ce qui me concerne. C'est le Front National qui est arrivé en tête. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen est perçue par beaucoup de Français comme le principal opposant à François Hollande. Et vous savez, dans mon esprit, ce qui s'est passé aux Européennes, c'est le dernier avertissement avant un nouveau 21 avril. Mais il se pourrait bien que ce soit un 21 avril à l'envers si l'UMP ne se ressaisit pas.
Qui pour diriger l'UMP à l'automne? Vous avez fait référence à l'élection pour la présidence de l'UMP, Bruno Le Maire? L'ancien ministre de l'Agriculture sera probablement candidat dans la journée, vous le soutiendrez?
J'ai fait un choix. J'ai fait un choix de proposer à François Baroin d'être notre candidat, un candidat de rassemblement. Il a de l'expérience, François. Il a géré l'UMP dans des moments très difficiles. Après le départ d'Alain Juppé, il s'est engagé sur la tenue des primaires, ce qui pour moi est un point incontournable. Il faut qu'il y ait des primaires, comme le veulent les électeurs de la droite et du centre. Et puis également, il est contre toute alliance avec le Front National. Voilà pourquoi je pense qu'il serait le bon candidat de rassemblement.
Il n'est pas encore candidat ?
Il m'a dit qu'il donnerait réponse prochainement. Il avait encore des consultations, une réflexion à mener jusqu'au bout. Je pense que ce serait le bon candidat de rassemblement. Pour le reste, je n'ai pas la frénésie des candidatures. Je pense qu'une candidature à la tête de l'UMP, ce n'est pas une échappée en solitaire. Et puis on est à un moment où il ne faut pas trop penser à soi et il faut aider.
Et vous-même, aider vous n'avez pas eu envie d'être candidat à la présidence de l'UMP?
J'ai exercé cette fonction et j'ai joué carte sur table. Je souhaite être candidat le moment venu, aux primaires, parce que là, ce sera en plus du choix du candidat, un véritable débat d'idées. Et que l'on dise aux Français qui voteront lors de ces primaires, vous choisirez le candidat, d'accord. Mais vous choisirez aussi sur quelle ligne politique, sur quelle réforme il s'engagera à rénover et à redresser le pays. Et ça sera peut-être aussi la façon définitivement d'avoir les promesses de campagne qui sont très fortes pendant la campagne et qui disparaissent le lendemain de la campagne. Je prends la mesure aussi de la déception qui a été créée.
Pour en revenir rapidement sur l'affaire Big Malion, vous avez évoqué la nécessité de couper entre la direction du parti et l'affaire elle-même et les conséquences qu'elle peut avoir pour tel ou tel si la justice s'intéresse au compte de campagne. Nicolas Sarkozy, s'il s'avère que cette campagne a été incorrectement financée, peut-il plaider l'ignorance ou bien est-il responsable de ce qui s'est passé?
Ça sera à lui d'expliquer comment les choses se sont passées. Mais je sais aussi une chose, c'est que dans les valeurs de la droite, il y a la responsabilité. Et je pense que quand on est responsable, il faut aussi être responsable de ses actes, mais aussi de celles et ceux qui entourent.
Que dites-vous ce matin aux citoyens qui ont versé 11 millions d'euros pour compenser le non-remboursement des frais de campagne, puisque le Conseil constitutionnel en avait décidé ainsi?
Je le dis notamment à ce monsieur qui, à la permanence de Laval, voilà quelques semaines, me dit « Monsieur Bertrand, j'ai donné pour le Sarcoton. À qui j'ai donné en définitive ? À qui j'ai donné ? Pour qui j'ai donné ?» Mais j'ai pas su lui répondre. Et je sais que ce monsieur, il est écœuré, je le suis tout autant. Et à un moment donné, où il faudrait redonner de la confiance dans la politique. On n'en a pas pris le chemin, notamment avec ce scandale. Voilà pourquoi il faut tourner définitivement la page.
Xavier Bertrand, qui n'est pas candidat à la présidence de l'UMP, mais qui est candidat à une autre présidence, si on a bien compris, était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée.
Il sera candidat aux primaires, si on a bien compris, en tout cas à l'UMP. Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous ce matin. Vous avez opiné du bonnet sur mon affirmation. Merci Jean-Michel, à demain.
À demain.
RTL, 7h57.
À 8h14, tout à l'heure, François Langlais, ce sera la guerre des dosettes. Parce que là aussi, il y a de la bagarre dans l'air. Les pronostics du Quintet, vous me les réclamez. Vous avez raison, les pronostics de Jérôme Bernardet ce matin. Le 3, le 5, l'As, le 11, le 8, le 4, le 12 et le 14. 3, 5, As, 11, 8, 4, 12, 14. La dernière minute de Jérôme, c'est le 11. Ré néon. Et vous avez rendez-vous avec le néon majeur, c'est-à-dire le soleil, aujourd'hui, et Louis Baudin.
RTL Matin. Laurent Bazin.
Louis Baudin, Barbara me signale des bouchons aux aéroports de Lyon en ce moment à cause des taxis et 20 degrés à Port-Camargue pour Loïc.
Ben au moins à Lyon il fait beau, hein, c'est
oui,
déjà ça. Il y a du beau temps ce matin pour aider à supporter ces bouchons. Alors cet après-midi, ce qu'il faut retenir, ce sont de nouveau des orages possibles à proximité des reliefs entre les Pyrénées, la région Rhône-Alpes, les Alpes, la Franche-Comté ou encore les Vosges. Dans toutes les autres régions, on va conserver un temps beaucoup plus sec et plus ensoleillé, même si ce matin on a quelques averses du côté de la région Poitou-Charentes. Ça ira mieux cet après-midi dans ces régions, le nord-ouest, près de la Manche ou encore près de la Méditerranée, du soleil. Côté température, ça baisse un petit peu dans l'est, mais globalement ça reste chaud puisqu'on aura 20 à 23 degrés près de la Manche, 25 à 30 ailleurs et jusqu'à 34 près de la Méditerranée.
Il est 8h sur RTL.
RTL 7h, 9h30, RTL Matin
avec Laurent Bazin.
Avec Philippe Corbet, vous me le dites beaucoup en ce moment, au 64 900 code matin comme au 32 10, c'est un mercredi de galère.
Grève reconductible à la SNCF, grève des taxis. On vient de passer il y a quelques instants les 300 km de bouchons partout en France. C'est une situation exceptionnelle. RTL toujours avec vous, info pratique et radio guidage tout de suite dès le début du journal. On va aussi revenir sur cette information RTL qui nous frappe ce matin. Le patron de la lutte antiterroriste nous révèle qu'Al-Qaïda forme en ce moment dans des camps en Syrie des Français pour venir mener des attaques kamikazes ici en Europe. À suivre, des centaines de chiens et de chats saisis, démantèlement d'une filière de trafic d'animaux. Et puis le mondial, J-1, notre premier adversaire, le Honduras, s'inquiète de la bonne forme des Bleus.
Le 8h, Philippe Corbet.
RTL Matin.
Et nous, on s'inquiète pour vous et pour cette journée noire.
Oui, on va évoquer évidemment dans un instant le mouvement des cheminots, le mouvement des taxis, mais d'abord la route, car vous êtes très nombreux en ce moment dans les bouchons. On est dans une situation exceptionnelle. 300 km de bouchons à 8h, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de gens qui sont bloqués dans leur voiture qu'un jour normal. On fait le point avec vous, Mélina Fachin. Où est-ce que ça coince? D'abord en Ile-de-France.
Alors, en Ile-de-France, trafic exceptionnel, vous venez de le dire, on en est actuellement à 300 km de bouchons. C'est largement au-dessus de la moyenne. Ce sont les axes nord-sud qui sont le plus congestionnés, avec un point noir sur l'A10 à hauteur de Vissou. Et puis suite au mouvement de grève des chauffeurs de taxi, la bretelle qui relie le périphérique intérieur à l'autoroute A1 est fermée.
Donc ça c'est pour l'Île-de-France et ailleurs en région?
Alors, dans l'agglomération lyonnaise, 12 km de bouchons sur l'A46 sud en direction de Paris. Et des bouchons également, on le disait, près des aéroports. Une opération escargot des taxis est actuellement en cours à hauteur de Mions. Et il y a également 10 km de bouchons sur l'A40 en direction de Lyon. Près de Grenoble, 8 km de bouchons sur l'A480 dans le sens nord-sud, 8 km sur la N87 en direction de Chambéry. Et enfin, dans le nord, près de Lille, on compte 5 km de bouchons sur l'A25 en direction de Paris.
Radio guidage sur RTL toute la journée, on va vous aider à mieux circuler. La SNCF avait prévenu, le mouvement de grève à l'appel de la CGT Sudrail est très suivi. Près de la moitié des cheminots ont cessé le travail. Il n'y a donc qu'un TGV sur deux ou sur trois, un TER sur trois, un Transilien sur trois. Toutes les lignes du RER sont perturbées, sauf la A. Sinamir, vous êtes en direct de la gare du Nord pour RTL. C'est donc particulièrement compliqué pour ceux qui viennent au travail. Ça prend deux fois plus de temps qu'un jour normal.
Ah oui, on ne compte plus les soupirs sur les quais. Grosse soupe à la grimace et la journée ne fait que commencer.
J'arrive de Coulommiers, pas de train pour partir, pas de RER, donc c'est merveilleux. Là, il faut que je prenne en surface, je vais mettre à peu près presque 3 heures. Ça va être dur.
À chaque fois, minimum 30 minutes d'attente entre deux rames.
Et moi, là, je me suis réveillée à 5h30 et je suis encore en retard, j'ai encore 45 minutes de route à faire.
Avec les taxis en grève, impossible de prendre la voiture sans risquer les bouchons. Et quand on a un examen comme Pascal dans 30 minutes, le stress monte encore plus.
L'examen, c'est toute la journée, jusqu'à ce soir 18h, il n'y a pas de grève pour ça. Vous passez un examen, vous payez une carte intégrale et vous n'avez pas les services adéquats, quoi. On a des bons pigeons, c'est tout ce qu'on a, quoi.
Et à peine arrivé, la galère du retour est déjà dans toutes les têtes, surtout quand, comme Brigitte, il n'y a que deux trains de prévus ce soir, direction Beauvais.
De peur que le train, soit il le supprime, soit qu'il mette un train court, auquel cas on ne peut pas du tout s'asseoir et c'est une horreur pour faire tout le voyage.
Et pour les touristes étrangers en transit, la galère n'est pas moins pire. On a même vu des voyageurs franciliens s'improviser gilet rouge tout à l'heure. Pas question de faire l'impasse sur l'anglais, sur les quais. Alexandre Ricoeur, conseiller pour patienter.
Sinamière, Gare du Nord pour RTL. Il faut rappeler que c'est un mouvement contre la réforme ferroviaire, le rapprochement SNCF-RFF, que c'est une grève reconductible, que ça va recommencer demain. C'est la première grève reconductible depuis 4 ans, depuis la réforme des retraites. On entendait il y a un instant, Gare du Nord, un candidat qui était bloqué et qui doit passer un examen. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des candidats de CAP, de BEP, du bac, qui ont des épreuves à passer, comme Chloé en terminale à Saverne en Alsace. On la sent très en colère dans ses réponses à Julien Cholin.
Je suis convoquée à 13h30 à Strasbourg pour passer un oral. Donc j'aurais dû prendre mon train à midi pour arriver à temps pour l'oral. De chez moi à Strasbourg, il y a 70 km. Il va falloir que je m'arrange avec une copine qui a le permis pour m'emmener ou mes parents voudraient prendre le congé pour m'emmener. Je suis en train de voir, j'envoie des messages. C'est un peu la panique. C'est énervant. Enfin, ils savent très bien qu'il y a des épreuves de bac en ce moment. Il y a quand même des grèves. Enfin, je trouve que c'est pas normal.
Alors, notre spécialiste éducation, Camille Cronier, s'est renseignée. Si c'est une épreuve écrite, vous pouvez avoir une heure de retard maximum, mais vous devrez finir à l'heure prévue. Pour les oraux, pas de règles précises. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est de demander un bon de retard à la SNCF. L'autre perturbation en cours ce matin, et on l'a vu, qui a des conséquences sur la circulation, c'est évidemment la grève européenne des taxis contre les véhicules de tourisme avec chauffeur. Les VTC, c'est déjà compliqué de circuler à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, à Nancy, à Avignon, et donc, on l'a dit, à Paris. Anaïs Bouissou, vous êtes à Orly. Les taxis vont se regroupent en ce moment dans les aéroports pour converger tout à l'heure vers le Trocadéro.
Oui, ils sont actuellement plusieurs centaines garés devant l'aéroport. Des taxis parisiens, mais aussi bretons, avec bonnets rouges et grands drapeaux qui sortent des portières. Pour les voyageurs, ça devient difficile de trouver un véhicule, à part de rares VTC, tout de suite alpagués par les grévistes.
Ils n'ont rien à faire ici. Montre-moi ta réservation.
Je te donne une réservation.
Ouais, vous allez faire peur à qui, là ? Arrêtez vos conneries, là !
Les premiers taxis devraient quitter l'aéroport d'ici 2 heures. Pareil pour les grévistes qui sont à l'aéroport de Roissy. Et si c'est déjà compliqué de rejoindre Paris, ça risque d'être de pire en pire. Tous les taxis doivent converger vers le centre de la capitale.
Et donc le conseil qu'on peut donner à tous les auditeurs, c'est bien rester branchés sur RTL et sur RTL.fr, peut-être avec votre téléphone mobile. On va vous aider toute la journée à mieux circuler avec nos infos pratiques, heure par heure, minute par minute.
Et dans la guerre taxi-VTC, nous recevrons tout à l'heure Pierre-Dimitri Gorcotti, qui sera chez Yves Calvi à 8h30, c'est le directeur général de Uber France.
RTL 8h07.
Cette information RTL maintenant. Des Français dans des camps d'entraînement Al-Qaïda en Syrie sont de futurs kamikazes.
Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Vous nous révélez donc ce matin cette information vraiment inquiétante. Certains des Français partis faire le djihad en Syrie sont donc formés en ce moment pour être des kamikazes, des attaques suicides donc chez nous en Europe.
Oui, c'est une menace directe et nouvelle que révèle Loïc Garnier, le patron de l'unité de coordination de lutte antiterroriste en France. La direction centrale d'Al-Qaïda a installé des camps d'entraînement au nord de la Syrie dédiés uniquement à former des terroristes.
Ils vont les entraîner dans le but, véritablement, et le but unique, de mener des attentats en Europe. Il s'agit là d'endoctriner un certain nombre de gens pour les conditionner à la commission d'un acte kamikaze, pour les amener jusqu'à l'engagement suprême.
Et parmi eux, plusieurs Français, précise hors micro ce policier de haut rang. Alors ces nouveaux soldats d'Al-Qaïda ne sont pas encore rentrés en Europe, mais ils pourraient le faire demain. Un profil encore plus dangereux que, entre guillemets, les simples djihadistes radicalisés. Alors surveiller ces centaines de combattants est devenu à la fois une priorité et une gageure pour les services français. Loïc Garnier.
Il ne faut pas se mettre un bandeau sur les yeux. La lutte antiterroriste, c'est une lutte qui mobilise tous les services de l'État et particulièrement les services spécialisés. Mais il peut tout à fait y avoir ce qu'on appelle traditionnellement un chiffre noir de gens que nous n'avons pas forcément identifiés, ni au départ, ni au retour.
Un chiffre noir qui inclut probablement Mehdi Nemmouche, le tueur de Bruxelles. Plus que jamais, l'enjeu aujourd'hui pour l'État, c'est de distinguer parmi les ex-djihadistes ceux qui sont déterminés à commettre des attentats.
Information RTL, Thomas Proutot. Le procès Bonne Maison sera aussi celui de la fin de vie. L'urgentiste de Bayonne est jugé à partir de ce matin aux assises des Pyrénées-Atlantiques pour avoir empoisonné 7 patients afin d'abréger leur souffrance. Il risque la perpétuité. Vous avez entendu ces dernières semaines sur l'antenne plusieurs proches de ces patients qui soutiennent le docteur Bonne Maison. Une seule famille s'est portée partie civile. Bouygues Télécom va présenter aujourd'hui la facture sociale de la guerre des prix dans la téléphonie et l'échec de son rachat de SFR. Selon les syndicats, le groupe pourrait supprimer un poste sur 9, soit 1000 postes en tout. Toyota lance un appel mondial, un appel à des voitures qui doivent être revenir en révision pour un problème d'airbag. 2 270 000 voitures en tout, des voitures Toyota donc.
RTL Matin.
RTL 8h10, Philippe Corbet, Laurent Bazin.
Un coup de filet dans les animaleries parisiennes, Philippe.
Oui, Damien Delceni, les enquêteurs soupçonnent un trafic international d'animaux.
Oui, hier, c'était opération main propre, ou plutôt patte propre, dans les animaleries des Quais de Seine. 7 magasins perquisitionnés, près de 200 chats et chiens confisqués et confiés à la SPA et 8 personnes placées en garde à vue. Parmi elles, le gérant de plusieurs enseignes, des employés et même 2 vétérinaires. Depuis des années, le service national des douanes judiciaires et la police parisienne enquêtent sur des faits d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et même de maltraitance animale. Leurs questions portent sur la provenance des animaux vendus dans ces animaleries, des chiens et des chats qui pourraient provenir d'élevages douteux des pays de l'Est, mais dont les papiers d'identité auraient été en quelque sorte falsifiés. C'est notamment pour cette raison que des vétérinaires figurent parmi les suspects et que leurs cabinets ont été longuement perquisitionnés hier. Les auditions doivent se poursuivre aujourd'hui dans ce qui est la plus vaste affaire qui touche ces boutiques mythiques de Paris.
Damien Delceni, la politique, Xavier Bertrand vient de dire sur RTL que l'UMP n'avait pas besoin de Nicolas Sarkozy après le bureau politique d'hier qui a confirmé le triumvirat Juppé, Fillon, Raffarin avec le secrétaire général Luc Châtel.
RTL, radio officielle de la Coupe du Monde FIFA 2014.
Le mondial, c'est demain. Il y a décidément quelque chose qui se passe en ce moment autour des Bleus, car près de 10 000 spectateurs sont venus assister à leur premier entraînement. Et parmi eux, Copan Alvarez de la télévision du Honduras, le premier adversaire de la France, dimanche.
Tout le monde est en train de penser au premier match contre la France, avec l'espoir qu'ils peuvent faire un bon match. Peut-être qu'on peut perdre, mais de faire un bon match, et surtout que ça ne soit pas comme la France-Jamaïque. On a beaucoup de respect, d'admiration, surtout par les joueurs comme Benzema. C'est un groupe très uni. Sans Ribéry, peut-être qu'ils n'ont pas ce plus que toutes les équipes ont besoin, surtout d'un joueur de la taille de Ribéry, mais il y a Benzema, il y a Evra. Au Honduras, on admire beaucoup les joueurs français et l'équipe de France.
Interview Jérôme Milago, on le retrouvera avec tous nos envoyés spéciaux au Brésil, comme chaque soir, à 20h dans On refait le mondial, RTL l'équipe.
Merci beaucoup Philippe Corbet.
RTL 8h12.
De Coupe du Monde, on va reparler, parce que cette nuit, Dilma Youssef, la présidente du Brésil, était à la télé. Venez en paix au Brésil, a-t-elle dit, parce que le foot, c'est aussi de la politique. On va en parler avec Pascal Boniface. C'est juste après la chronique de François Langlais sur la guerre des dosettes, figurez-vous.
RTL Matin.
RTL 8h14.
Bonjour François Langlais.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors vous avez intrigué tout le monde avec cette histoire de guerre des dosettes. On va venir au fait. Nespresso a été condamné hier pour concurrence déloyale, oui. C'est en France. Hein. Qu'est-ce que la justice reproche à Nespresso ?
Eh oui, c'est une tempête dans une tasse de café, voyez-vous. On lui reproche d'entraver systématiquement ses concurrents qui fabriquent aussi des capsules de café pour ses machines à expresso, c'est-à-dire les machines Nespresso. En fait, la société filiale de Nestlé diffusait auprès de ses clients des informations fallacieuses, jetant un doute sur la qualité des capsules, sur leur biodégradabilité, voire sur leur sécurité. En clair, la société tentait de préserver son marché par des moyens litigieux. Et le tribunal de commerce de Paris l'a condamné hier à 500 000 euros d'amende. En fait, Nespresso avait déjà été sermonné il y a peu par l'autorité de la concurrence française, qui lui avait fait s'engager à transmettre à ses concurrents encore 3 mois à l'avance les changements de spécifications techniques des capsules dans les nouveaux modèles de machines pour qu'ils puissent s'adapter et proposer eux aussi des produits compatibles. Il faut savoir que la France, c'est l'un des plus gros marchés pour ces produits. Un quart des ménages français possèdent une machine à expresso et 75% de ces machines sont vendues par le Suisse.
Donc c'est un enjeu énorme.
Énorme. C'est ce qu'on appelle le marché des consommables. Vous savez, c'est les produits qu'on achète et qu'on jette une fois qu'ils sont utilisés, justement comme la capsule de café. Et ce sont souvent des marchés bien plus rentables que celui de la vente des appareils. C'est ce qui explique la détermination de Nestlé à le protéger, même par des moyens incontestables. Et c'est ce qui vaut aussi aux fabricants d'imprimantes informatiques, par exemple, de gagner plus d'argent, eux aussi, avec leurs cartouches, plus qu'avec l'appareil initial. Le pionnier de ce modèle de business bien connu, c'est Gillette, avec ses rasoirs et des innovations régulières, et qui avec le marché des lames jetables. En 1901, ça date pas d'hier, le rasoir Gillette n'avait qu'une lame. En 76, deux lames. En 98, trois. Et en 2006, 5.
Mais ça s'accélère.
À chaque fois, le produit est plus cher, il est réputé plus efficace. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tendance au développement des consommables semble ralentir. Parce que le grand public, il a bien compris qu'on lui faisait payer cher et puis il est plus sensible au gaspillage qu'auparavant. Gillette, justement, signe des temps, s'apprête à changer de pied avec un nouveau produit lancé pour la fête des pères, là, dans quelques jours. Pour la première fois, la société américaine a logé l'innovation technique non plus dans le consommable, la lame jetable, mais dans le rasoir lui-même, avec une tête pivotante. Alors, ça permet à l'industriel de vendre le matériel sensiblement plus cher que la précédente gamme. Quel que soit l'option, vous voyez, avec le nouveau rasoir, le consommateur se fait tondre.
Merci François Langlais.
Bonne journée.
Toute l'actualité économique avec Temporis, premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Temporis, plus de 100 agences partout en France.
RTL Matin.
À 7 jours, la météo, Louis Bodin, c'est aussi beau qu'aujourd'hui ?
Oui, c'est aussi beau qu'aujourd'hui, même un peu plus. Hein, dans les régions du nord et de l'ouest, l'anticyclone va s'installer au cours de ces prochains jours. Ça restera un petit peu plus instable en montagne, tout ça avec de la douceur.
À tout à l'heure, 8h31 pour vos prévisions complètes. Vous pouvez évidemment appeler le 3210 pour me raconter comment se passe cette matinée qui est apparemment très douloureuse pour beaucoup d'entre vous sur le chemin du travail ou des examens. Et puis on va parler football et politique dans 2 minutes avec Pascal Bonifay.
Laurent Bazin jusqu'à 9h30.
RTL Matin. RTL 8h20.
RTL do Brasil, vous le savez, hein, avec la Coupe du Monde, ça commence demain. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour Laurent Bazin.
Directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, amoureux de sport, évidemment, de football en particulier, auteur de Géopolitique du sport qui vient de paraître et qui est absolument passionnant chez Armand Collin. Cette nuit, on a entendu Pascal Boniface, la présidente brésilienne, assurer que le Brésil était prêt. Amis, venez en paix au Brésil. On a déjà vu une Coupe du Monde avec un tel enjeu politique.
Non, là, parce que d'une part, il y a une contestation sociale qui est plutôt rare avant une Coupe du Monde et qui est beaucoup plus forte qu'auparavant, quoi qu'on se rappelle qu'en France, il y avait une grève des pilotes d'Air France à quelques jours du démarrage du Mondial en 98. Et donc là, finalement, ce sont les conducteurs du métro qui font un peu la même chose. Et surtout, Dilma Rousseff, le Brésil avait été candidat pour organiser la Coupe du Monde pour être au centre du monde. Elle l'est et ça se passe pas aussi bien. Tout n'est pas tout à fait prêt. Il y a de la grogne sociale, donc il y a un peu d'inquiétude pour savoir comment le Mondial va se dérouler, comment les supporters seront reçus, et puis surtout en septembre, des élections présidentielles. Et donc, Dilma Rousseff est candidate pour un second mandat consécutif. Et évidemment, si la Coupe du Monde, qui est censée être le triomphe international du Brésil, se traduit par une catastrophe en termes d'image pour ce pays, elle en paiera la conséquence
lors
des élections.
Mais ça dépend de la victoire du Brésil, quasiment ? Si le Brésil ne gagne pas, elle sera battue en septembre ?
Non, parce que finalement, en 2002, le Brésil a gagné la Coupe du Monde, et c'est le candidat de l'opposition, Lula, à l'époque, qui a emporté les élections contre le président sortant.
Donc c'est pas automatique ?
C'est pas automatique. On peut très bien, le football n'endort pas forcément les revendications populaires. On peut aussi être de l'opposition et profiter d'une victoire de la Coupe du Monde. De toute façon, le problème pour les Brésiliens, c'est que dès qu'ils participent à une Coupe du Monde, le minimum, c'est de gagner. Et quand en plus c'est chez eux, la pression est encore plus forte. Donc, si les Brésiliens n'arrivent pas en finale, ça sera effectivement une déception. Ce n'est pas pour autant que Dilma Rousseff ne sera pas réélue. Ce qui va compter, c'est son programme et surtout, c'est que le Brésil est un peu essoufflé. Ils ont eu une croissance très forte au cours de toute la première partie de ce début de siècle qui a permis la constitution d'une classe moyenne qui maintenant émet des revendications. Ils ont été habitués à la croissance, 6-7% au cours de 10 années. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus que 1 ou 2%. Ça crée effectivement des revendications. Surtout que le Brésil, c'est pas un pays pauvre, c'est un pays injuste. Comme l'avait dit l'ancien président Cardoso, et que les inégalités au Brésil, pour avoir été réduites, sont toujours existantes. Il y a moins de pauvres au Brésil qu'auparavant. Il y a toujours des inégalités.
Je retiens cette formule. Le Brésil n'est pas un pays pauvre, c'est un pays injuste. tout le monde fait de la politique à tous les étages, on a l'impression, avant cette Coupe du Monde. Les Bleus font de la politique. On les a vus. Alors, je sais que je suis un peu monomaniaque avec l'histoire du casque sur les oreilles, mais ça nous avait évidemment beaucoup frappé au moment de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ces joueurs qui ne regardaient pas leurs supporters, ils les regardent, ils s'arrêtent, ils signent des autographes, ils sont attentifs. Didier Deschamps fait de la politique ?
Ah oui, ça, enfin, la fédération, le sélectionneur fait de la politique. Il faut faire oublier le scandale de Knysna et la mauvaise image qui a été dégagée en 2010. Alors, bien sûr, et Didier Deschamps et Noël Le Graët ont raison de répéter que ce qui compte avant tout, c'est le résultat. Et qu'une équipe qui a le sourire et qui prend plusieurs buts n'est pas très populaire. Mais en tous les cas, quand même, il faut rassurer les supporters, il faut recréer un lien qui a été distendu, pour ne pas dire cassé, avec une grande partie du public français. Et il faut redonner un sourire à cette équipe de
Donc
France.
Donc la com ne vous choque pas, cette com qui a tout envahi, de bleu dans l'avion, ils sont très copains, ils jouent au poker à l'aéroport, etc.
Vous savez mieux
que
moi qu'on ne peut pas faire de la com sur un mauvais produit. Et que donc, s'il y a une mauvaise équipe, ou si ça n'a pas une certaine sincérité, ça ne marchera pas. Je crois que ces joueurs de l'équipe de France ont réellement envie d'avoir un lien avec le public. Ils ont compris, et ils savent dans leur fort intérieur que sans les supporters, ils ne sont pas aussi grands que cela, ils ne sont pas aussi bons. Donc ils veulent recréer ce lien pour avoir de nouveau, je ne sais pas si vous étiez au Stade de France le 19 novembre, lorsque l'équipe de France s'est qualifiée dans le match retour du barrage, contre l'Ukraine, il y avait vraiment une véritable communion avec le public qui a transporté les joueurs. Et donc, ils ont envie de revivre ces moments-là.
Donc, vous qui disiez, par exemple, au moment du scandale autour de la main, ou de la polémique plus exactement, autour de la main de Thierry Henry, qui nous avait qualifié précédemment, vous qui disiez qu'on faisait trop porter aux footballeurs, vous pensez qu'ils ont un rôle social et politique important?
Oui, il ne faut pas le surjouer. C'est-à-dire que si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, ça ne va pas résoudre les problèmes du chômage, de la crise économique, etc. Mais ça redonnera un peu de morale aux Français. Ça va faire qu'on sera un peu plus souriant le matin quand on se lève et qu'on va aller au boulot, grève ou pas grève. Et donc, c'est vrai qu'un bon parcours de l'équipe de France, on l'a vécu en 98, on l'a vécu en 2006, eh bien, le pays se sent mieux. Et il y a beaucoup plus d'optimisme, il y a beaucoup plus de confiance en soi, il y a beaucoup plus d'ouverture sur les autres.
Au moins pendant un mois.
Pendant un mois, et puis ça dure un petit peu. Après, dire que c'est une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes, bien sûr que non.
Pascal Boniface, merci d'avoir été notre invité ce matin. Géopolitique du sport, je le rappelle, c'est publié chez Armand Collin.
RTL 8h25.
Questionnez, témoignez, réagissez.
Sur RTL, les auditeurs ont toujours la parole.
Maintenant, c'est à vous, vous avez la parole, appelez Laurent Bazin, 3210.
Alors, vous êtes très nombreux à vous inquiéter pour vos enfants qui passent des examens aujourd'hui. C'est le cas de Marie-Agnès qui nous appelle du Creusot. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour Laurent.
Alors, qui passe quoi chez vous?
Ben, j'ai ma fille qui passe une épreuve du brevet, c'est l'histoire des arts.
Oui.
Donc, je suis branchée sur RTL depuis le matin.
Vous faites bien.
Et donc, je savais qu'il y avait la grève. Donc, ce matin, je l'ai descendu. Il n'y avait pas de train.
Ouais.
Mais bon, il y avait un bus quand même. Mais bon, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au monsieur qui m'a appelé. Je pense à tous ces enfants. Eux, ils y sont pour rien. Nous, on est adultes. C'est compliqué pour nous, pour les adultes, mais pour les enfants qui vont passer un examen ou qui vont passer le bac ou qui vont passer n'importe quel concours, ils ont déjà une pression énorme. Et ça, c'est encore plus pour eux. Moi, elle était stressée
ce matin. Même pour le brevet, vous avez senti que ça la stressait?
Ben oui, parce que j'ai joué un rôle de maman, pas le même rôle que les autres, parce qu'on a reçu la note du brevet blanc, mais je lui ai pas donné pour qu'elle aille au brevet comme il faut, quoi. Parce que avec le brevet blanc, elle a son brevet, mais j'ai voulu jouer la carte.
Ça, vous pouvez le dire, parce que maintenant, elle est partie dans le bus, donc elle nous écoute pas.
Ben non, là, elle écoute pas, puis là, elle doit être rentrée au collège, mais je voulais qu'elle y aille.
On sait qu'elle a eu son brevet blanc, donc ça, c'est le scoop pour les auditeurs d'RTL, et je croise les doigts pour qu'elle ait le brevet tout court, mais ça a l'air pas mal parti malgré le stress.
Je voudrais qu'elle ait une mention parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire.
Ah, c'est la mention
et
pour votre anniversaire.
Qu'elle me fasse un beau cadeau.
Marie-Agnès, merci de votre petit coup de fil.
Bon courage à tous les enfants et à tous ceux qui passent des examens aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous pour votre anniversaire. On va se débrouiller pour vous envoyer une petite montre RTL.
Ah, c'est gentil.
Ça nous
merci
fait plaisir.
Beaucoup.
Ces cadeaux, c'est avec plaisir. Et on embrasse votre fille. Je dis un mot également de Sylvie qui nous appelait à la même heure que vous hier de Vitry-le-François dans la Marne et dont la fille passe son oral d'espagnol pour le bac ce matin. Elle devait prendre le train, il n'y avait pas de train, etc. Ça a été toute une histoire. On a appelé Sylvie, ou plus exactement, elle nous a rappelé tout à l'heure pour nous dire que sa fille est bien arrivée à 8h en salle d'examen. Donc pour elle aussi, on croise évidemment les doigts.
RTL 8h27.
Yves Calvi.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Notre invité aussi va passer son examen, d'une certaine manière.
Exactement, il s'appelle Pierre-Dimitri Gorkoti, il est le directeur général d'Uber France, numéro 1 des VTC français. C'est à lui qu'on doit plus de 310 km de bouchons au moment où nous parlons. En est-il fier ? Eh bien, je pose la question à celui que les taxis considèrent aujourd'hui comme l'ennemi public numéro 1.
Il est 8h30 sur RTL.
Le j'allais le dire.
Mais oui, si, facile.
Bazin jusqu'à 9h30.
RTL Matin.
Alors, avec Caroline, le premier qui dit l'heure a gagné, donc ce matin, c'est moi. Les infos avec Adeline François.
Trafic conforme aux prévisions à la SNCF avec une grève des cheminots très suivie et en moyenne un train sur deux ou trois selon les régions. Le mouvement est reconductible. Les cheminots protestent contre la réforme ferroviaire. Les taxis, eux, manifestent dans toutes les grandes villes d'Europe contre la concurrence déloyale des VTC. Rassemblement à Lyon, Nice, Marseille et Paris. Les taxis doivent quitter Orly et Roissy pour converger vers le Trocadéro aux alentours de 10-11 heures. Attention, certains taxis se rendent en ce moment même à Orly en opération escargot. Du coup, la grève et son corollaire, les embouteillages, 330 km de bouchons cumulés en région parisienne en ce moment, c'est 2 à 3 fois plus que d'habitude. UMP, 3 lettres et 3 têtes. Le bureau politique de l'UMP a désigné hier soir à l'unanimité une direction provisoire, Raffarin, Juppé, Fillon. La survie de l'UMP est toujours en jeu. Il faudra plus de volonté et moins de haine, a dit Xavier Bertrand, invité de RTL ce matin.
Louis Baudin.
Oui.
Il est bien installé, votre ami. Hein,
oui, il s'installe, mon ami l'anticyclone. C'est vrai, il revient petit à petit par le nord et le nord-ouest. Donc déjà aujourd'hui, on l'a dit, dans ces régions de l'ouest, le soleil va revenir, des orages encore dans l'est. Demain, cet anticyclone va gagner encore un petit peu de terrain. Donc le soleil dominera quasiment partout. Il n'y a qu'en montagne où on aura, comme aujourd'hui, une évolution orageuse possible en toute fin de journée. Les températures resteront au-dessus des normales de saison. En général, autour de 25 ou 27 degrés dans la plupart des régions et plus de 30 degrés dans le sud-est. Eh bien, ce type de temps devrait nous accompagner jusqu'au week-end, voire en tout début de semaine prochaine. Donc ça veut dire beaucoup de soleil et puis en cours d'après-midi un petit peu plus de nuages et éventuellement une averse orageuse en montagne et seulement en montagne, tout ça avec des températures qui resteront très douces, alors peut-être un petit peu plus basses qu'en ce moment, mais largement de saison, aux alentours de 25 degrés dans la moitié nord et jusqu'à 28 dans le sud.
Magnifique.
Ben oui.
Merci Louis. Yves Calvi, vous recevez ce matin le patron de Uber, Pierre-Dimitri Gorkoti.
Bonjour Pierre-Dimitri Gorkoti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. C'est une sacrée journée de mobilisation contre vous que nous vivons en ce moment même. Partout en Europe, des taxis sont en grève pour protester contre la concurrence qualifiée de déloyale des VTC. Et en Ile-de-France, on compte au moment où nous parlons 330 km de bouchons. Est-ce que vous êtes fier de vous ?
Écoutez, je crois que ce dont je suis fier en tant que société Uber est finalement d'avoir réussi à apporter une forme de concurrence sur un marché qui n'en a pas connu et qui permet aujourd'hui à des centaines de milliers de Français de se déplacer d'une manière fiable, fiable et abordable.
Uber est présent, vous avez raison, dans 130 villes et 36 pays au monde. Vous êtes en fait le leader mondial du VTC et la société est valorisée à 17 milliards de dollars. Comprenez-vous qu'on puisse parler de concurrence déloyale ? Voilà, je vous prends l'artisan taxi qui est en train de nous écouter et les chiffres que je viens de citer qui sont à votre honneur. Mais on se rend bien compte qu'il y a une proportion.
Alors, je ne pense pas que ce soit une concurrence déloyale, c'est une forme de concurrence, oui. Il faut bien comprendre que le marché du VTC existe depuis 2009, ce n'est pas Uber qui l'a inventé, qu'il y a un cadre législatif qui existe et que la différence fondamentale entre un taxi et un VTC est la capacité de maraude. Un taxi peut prendre un client dans la rue qui le hait, un VTC ne peut pas. Donc nous agissons dans les règles d'un cadre qui existe depuis 2009, c'est donc pas une concurrence déloyale.
Mais que dites-vous aux taxis qui vous écoutent et qui par exemple ont payé leur licence pour exercer leur métier ? Parfois à Paris c'est 100-200 000 euros.
Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que d'une part cette licence finalement offre un droit et le droit de maraude, c'est celui que je disais que les VTC n'ont pas, donc c'est la première chose. La deuxième
chose... Chacun ses avantages et chacun ses besanteurs, c'est ça ?
Ce sont deux marchés différents et l'autorité de la concurrence l'a rappelé. Le marché de la maraude, qui est donc celui de la rue, et le marché de la réservation préalable. Et d'autre part, ce qui est très important aussi, c'est qu'Uber ne peut pas être porté responsable pour une spéculation qui s'est organisée autour de la valeur d'un actif qui initialement était donné à titre gratuit. Les licences sont délivrées gratuitement par les préfets.
Vous leur dites quoi ? La République française a laissé se développer un marché lui-même anormal, qui est celui des plaques de chauffeurs dans les grandes villes où on gagne de l'argent pour se pétier ?
Je constate simplement qu'il y a une demande qui a été laissée insatisfaite, qui se reflète d'ailleurs dans la valeur de la licence exponentielle dont vous parlez, et que cette demande aujourd'hui des acteurs comme Uber viennent l'assouvir avec une solution de transport qui soit flexible, qui soit fiable et qui soit abordable.
Vous êtes aussi dans le collimateur des autorités. Frédéric Cuvillier, notre ministre des Transports, annonce ce matin une procédure ouverte par la concurrence renforcer la répression des fraudes. Vos pratiques ne sont pas acceptables, c'est le terme qu'emploie le ministre. Que lui répondez-vous ?
Alors la procédure dont on parle ce matin est une procédure qui est en cours depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, avec laquelle nous collaborons pleinement et nous continuerons de collaborer.
Fiscalement, est-ce que Uber est en ordre ?
Alors,
on vous attaque régulièrement là-dessus et dans différents pays.
Uber respecte la réglementation fiscale dans l'ensemble des marchés sur lesquels il est implanté. Maintenant, c'est très important également de comprendre ce qu'Uber apporte à l'écosystème. Des centaines, voire des milliers de sociétés de transport françaises se sont créées à Paris, en Ile-de-France et en France depuis l'arrivée d'Uber sur le marché. Ce sont des sociétés qui n'ont d'autre choix que de déclarer entièrement toutes les courses et tout le revenu qui est effectué. Et ça, je crois que c'est un vrai bénéfice dans une industrie qui historiquement est connu pour les transactions en cash.
Mais l'argent que vous gagnez en France, vous le payez en France. Je cite le député socialiste Thomas Thévenoud, hein, il est l'auteur d'un rapport sur les VTC, il était récemment l'invité d'RTL. Quand il parle d'Uber, il dit taxi clandestin, maraude électronique, défiscalisation d'une partie de la course aux îles Caïmans, il dit même la place d'Uber est devant les tribunaux. Mais
À nouveau, Uber respecte la réglementation en vigueur, y compris sur le plan fiscal, et donc nous avons un siège en France, Uber France, qui emploie à peu près 25 salariés à l'heure où je vous parle, et nous respectons la réglementation fiscale.
Le député Thévenoud parle aussi de taxi clandestin. Il fait allusion à Uberpop, hein, votre service de covoiturage. Bref, pour lui, un particulier devient chauffeur alors qu'il n'en a pas l'autorisation. Alors, peut-être on peut poser la question autrement. Est-ce que, par exemple, vous êtes sûr que tous vos chauffeurs Uberpop sont couverts par une assurance qui leur permet de transporter des clients ?
C'est une excellente question, d'autant plus que la sécurité des passagers, des utilisateurs de l'application est quelque chose auquel on est évidemment très très prudent, sur lequel on est très prudent. Les conducteurs ont une assurance individuelle qui est la leur. En plus de ça, Uber a signé un contrat d'assurance dans 5 pays en Europe qui couvre l'ensemble de la responsabilité civile de ses conducteurs à hauteur de plus de 3,5 millions d'euros par incident. Donc oui, les conducteurs sont couverts en cas d'accident.
Je peux monter dans un Uber Pop, je suis couvert en tant que...
Vous êtes couvert en tant que passager tout à fait, à hauteur de 3,5 millions d'euros par incident.
Il est clair
en plus, évidemment, de l'assurance individuelle de ce conducteur.
Il est clair que vous répondez à une attente, selon témoigne votre succès et la satisfaction généralement reconnue de vos clients. On pourrait dire à contrario, est-ce qu'Uber peut s'en satisfaire ? Vous rendez bien compte du climat d'hostilité qui vous entoure, qui n'est pas celle de votre clientèle, mais voilà. Et on se demande même parfois si ça ne sert pas à votre communication, pour tout vous dire.
Ce qui est évident, c'est qu'une journée de plus comme aujourd'hui, sur lesquelles les taxis essayent de bloquer les Français, de les empêcher de se déplacer, et sur lesquelles, à contrario, des sociétés comme Uber vont tout mettre en œuvre pour essayer de permettre à un maximum de Français de se déplacer, sont des journées sur lesquelles on va fédérer encore plus d'ambassadeurs et d'utilisateurs de l'application, très clairement.
Dites-moi le fond de votre pensée, les taxis traditionnels sont dépassés ?
Les taxis traditionnels ne sont pas dépassés, mais je pense qu'il est important de comprendre que la technologie envahit tout notre écosystème et donc il faut pouvoir se renouveler. Maintenant, il y a une tendance structurelle qui est importante également à comprendre et qui est positive pour les taxis comme pour les VTC. Et cette tendance structurelle, c'est une tendance sur la voiture individuelle. Si la voiture individuelle est quelque chose qui sera dépassé, de moins en moins de personnes vont avoir le besoin d'utiliser leur propre voiture et ces personnes-là vont se reporter sur des ressources qui sont partagées, qui peuvent être les transports en commun, les taxis, les VTC. Et il faut donc créer un écosystème du transport qui soit le plus divers possible et le plus fiable possible. Et c'est ce qu'Uber fait au quotidien.
Merci beaucoup Pierre-Dimitri Gorcotti, directeur général d'Uber France, ennemi numéro un des taxis, mais pas de leurs clients, on l'a bien compris. Et puis comme je suis honnête, il faut que je précise quand même qu'aujourd'hui, il y a une grosse grève de la SNCF et que ça doit contribuer un petit peu aux 6 km de bouchons que je vous attribuais en début d'interview. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous, Laurent.
Votre honnêteté, il vous honore.
Proverbial.
Merci. Belle journée. À demain.
À demain.
RTL Matin.
RTL 8h41 et à 9h, laissez-vous tenter le programme.
Oui, du cinéma avec La Ritournelle avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Darroussin. D'ailleurs, on sera très chanson d'une manière générale ce matin avec les albums d'Éric Serra, une bande-son réjouissante sur les musiques aux racines de la musique noire. Et puis, le nouveau Mika, c'est une spéciale dédicace pour Laurent Gérard.
Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom.
Vous savez que ça vous plairait, Laurent ? Parce que votre cœur fait boum 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 aussi.
On passe tout le temps à RTL.
RTL, 8h42.
Bonjour Agnès Bonfillon.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
On va commencer par un témoignage très fort, m'avez-vous dit, poignant dans Paris Match.
Je suis le fils du bourreau d'Ouradour. Pour la première fois, Rainer, cet enfant blond que l'on voit en photo en 1944, entre ses parents, accepte de parler de ce poids, de ce secret. Pendant très longtemps, le massacre organisé par son père le 10 juin 1944, pendant très longtemps, Oradour a été un sujet tabou dans la famille. À 8 ans, la seconde femme de son grand-père lui raconte que son père a fait quelque chose de très grave pendant la guerre, mais pas plus. Son paternel lui est mort une vingtaine de jours après le massacre. Ce n'est qu'à 26 ans, complètement par hasard, qu'un photographe dit à Tarainer, lors d'un dîner, qu'il se rend à Oradour pour un reportage. Et là, le nom qu'il avait refoulé depuis l'enfance ressurgit. Il lui demande s'il peut le renseigner sur ce qu'a fait son père là-bas, le major Diekman. Réponse en forme de coup de poing. Ton père est le principal responsable du massacre. C'était terrible pour moi, se souvient Rainer, aujourd'hui médecin retraité. Que mon père ait fait assassiner 642 personnes sans raison, c'était incompréhensible. Après l'école primaire, direction l'internat pour le jeune homme, dont le deuxième prénom est Adolphe. Évidemment, continue Rainer, cela témoigne du fait que mon père était un nazi, convaincu. Alors qu'il a 14 ans, un professeur lui dit « Ton père était officier dans la Wehrmacht, j'aimerais savoir quelle était exactement sa fonction ». Là, il demande à sa mère et en toute bonne foi, il répond au professeur, major, dans la SS. À partir de là, lui qui avait toujours été un excellent élève n'a plus que de mauvaises notes, ses camarades l'ignorent. À 72 ans, aujourd'hui, il ne s'est jamais rendu à Oradour-sur-Glane. Trop honte d'être le fils d'un tel homme. Pourtant, Rainer a tenté de savoir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Savoir si son père avait été le seul à commanditer le massacre. À chaque fois, il s'est heurté à des murs. Après avoir découvert en tout cas ce que son père avait fait, et à la mort de sa mère, il a brûlé toutes les affaires à l'exception de quelques photos. Il a également mis au feu deux lettres jamais ouvertes, envoyées d'Oradour. Jamais il ne pourra l'excuser, dit-il. Difficile de décrire ce qu'il ressent pour celui qui lui a quand même donné la vie. Je n'irai pas jusqu'à parler de haine, mais j'ai toujours pensé, conclut-il. Heureusement, il n'a pas survécu à la guerre. Ça nous a rendu la vie plus facile.
Une histoire de famille encore, mais du joli côté de la vie cette fois.
Oui, exactement. Les jumelles dont le New York Post publie aujourd'hui le portrait. Une jolie histoire. Emily et Caitlin viennent de fêter leurs 18 ans. Un vrai miracle, disent ces jolies adolescentes qui posent autour du chirurgien qui leur a sauvé la vie. À la naissance, elles étaient siamoises. Elles étaient reliées par le foie et la hanche. Aujourd'hui, il est encore très difficile de pratiquer ces opérations. Alors en 1996, imaginez-vous, entre 40 et 60% de bébés siamois sont morts-nés. 35% des autres ont une chance de survivre, voilà, à peine. Le professeur qui a effectué l'opération dit que c'est comme une loterie, hein, un petit peu. On ne sait pas si les enfants vont vivre. On comprend mieux quand les jumelles parlent de miracles. Elles sont en tout cas en pleine forme, sont diplômées et vivent comme les autres jeunes de leur âge.
Merci Agnès Bonfillon. À tout de suite, Laurent Gérard.
À tout de suite.
Laurent Bazin.
RTL Matin jusqu'à 9h30.
Il est 8h47. Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Bazin.
Et bonjour Laurent Gérard. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Monsieur.
Bonjour Monsieur Balladur.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Alors Monsieur Balladur, hier soir vous étiez présent au bureau politique statutaire de l'UMP. Qu'est-ce qui explique cette participation exceptionnelle présentée comme une caution morale par certains de vos proches?
Je vais tout simplement expliquer aux membres du bureau que pour financer une campagne présidentielle, il n'y a pas besoin de faire des fausses factures. Je le rappellerai qu'en 1995, j'avais financé ma campagne en vendant des t-shirts marqués « I love Bala » et des pins qui parlent, qui scandaient « Balladur, président !» Sans oublier, préparé par mon épouse Marie-Jo, ces encas constitués de deux morceaux de pain entrelardés, d'une tranche de jambon ou garnis de rondelles de saucisson et de cornichons. Comment appelle-t-on ça déjà?
Des sandwichs.
Oui, voilà ça, des sandwichs. Ça en avait rapporté des sous, les sandwichs.
Oui. À ce propos, ne craignez-vous pas que certains observateurs, puisqu'il sera question de financements occultes, évoquent l'affaire Carracci?
Caracquoi?
Carracci.
Ah, Roger Carracci, oui, je le connais. Je connais aussi Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin et Luc Châtel, le quatrième homme du triumvirat. Une belle brochette de gagnants. Sinon, ça va? Vous avez eu un train pour venir? Un taxi? Allez, bonne journée.
Dans ses mémoires qui viennent d'être publiées, Hillary Clinton qualifie Nicolas Sarkozy de gentleman exubérant et rapporte son goût pour les potins.
Bonjour Mademoiselle Jade et bonjour Monsieur Bazin.
Bonjour Président Sarkozy.
Bonjour.
Alors justement, à propos de points, dans le point, à propos de potins, Jérôme Lavrieux, l'ex-bras droit de Jean-François Copé, règle ses comptes avec tous les ténors de l'UMP sur fond d'affaires Big Malion. Un commentaire, Nicolas Sarkozy?
Non mais attendez, vous voulez que je vous fasse un commentaire? Ben attendez, mais je ne l'ai pas lu, le point. Bon, que je regarde, vous en avez un. Qu'est-ce qu'il dit, le Lavrieux? Alors, gna 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 gna. Ah, François Fillon est complexé de l'intérieur, il est dans l'auto-émasculation, tout en ayant besoin de prouver sa virilité. Ça, ça ne m'aurait pas plu. Hein. Mais enfin, c'est pas mal tourné. Bon, je continue. Wauquiez, c'est une raclure. NKM, ce n'est pas une belle personne. Dites donc, on ne croirait pas à le voir tout pleurnichard à la télé, mais c'est un teigneux, monsieur Lavrieux. Je suis content de ne pas le connaître. Hein.
Oh, tout de même, monsieur Sarkozy, Jérôme Lavrieux était votre directeur de campagne à partir de février 2012.
Non, mais si vous m'interrompez tout le temps...
Excusez-moi.
Je ne vais pas y arriver. Allez, je reprends. Qu'est-ce qu'il dit encore ce Lavrieux, hein? Le problème dans ce milieu, c'est qu'il y a des gens morts de l'intérieur, Baroin Juppé. Bon, ben, ça, c'est pas faux. Hein? Baroin, le Harry Potter de l'UMP. Il y a longtemps qu'il a perdu sa baguette magique. Hein? Mais Juppé, le chauve qui peut du triumvirat. Bon, je continue. Copé ne l'est pas. Mais ne l'est pas. Ne l'est pas quoi? Ah oui, il n'est pas mort de l'intérieur. Ben non, c'est vrai, Copé, c'est pas quelqu'un de mort à l'intérieur, Copé, il est mort à l'extérieur. Jean-François Copé, ça c'est un type malin. Mais oh, vous savez, je ne l'ai presque pas connu. Et je n'ai pas à commenter ses choix. Bon. Mais enfin...
Mais enfin quoi, monsieur le Président? Vous regrettez que Jean-François Copé quitte la présidence de l'UMP?
Ah ben non, quand même, faut pas pousser.
Ah, non,
hein? Non, ce que je voulais juste faire remarquer, en toute modestie, comme un observateur extérieur et impartial, c'est que Copé a choisi de quitter l'UMP le 15 juin prochain.
Effectivement, et alors?
Le dimanche 15 juin.
Oui, le 15, c'est bien dimanche. Où voulez-vous en venir, Nicolas Sarkozy?
Vous en connaissez beaucoup, vous, des employés qui quittent une entreprise un dimanche? Et qu'est-ce qui se passe, comme par hasard, ce dimanche 15 juin, mademoiselle Jeanne? Vous voulez que je vous le dise?
Ben oui.
Ben je vais vous le dire.
Merci.
Dimanche 15, les Bleus jouent leur premier match de la Coupe du Monde de foot au Brésil. C'est ça vrai. Tombe bien, hein?
Ouais.
Comme ça, ce monsieur Copé, que je connais à peine, hein, je le redis, est sûr que sa démission ne fera pas les gros titres le lendemain?
Bah, vu comme ça, c'est vrai que...
N'est-ce pas? Bon, je termine avec cet article. Le maire, poisson froid, oui, Sarkozy, c'est le plus vivant de tous. Mais à quoi ça sert? À quoi je sers? Ben, vous attendez le congrès de l'UMP cet automne, vous allez voir à quoi que je sers. Non, ça va, vous? Vous avez eu un train? Vous avez pris un taxi?
Regardez, on est là, on est là.
Pris un VTC. Allez, bonne journée. Hein.
Bonjour Dominique de Villepin.
Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Bazin.
Bonjour monsieur le Premier ministre.
Et à vos auditeurs, je souhaite un bon matin.
Ah, monsieur de Villepin, récemment, à propos de Nicolas Sarkozy, vous avez déclaré, je vous cite, « Il fait partie des très rares à avoir les capacités de rassembler la droite ».
Vous pensez, je le sens, que j'ai tourné ma veste, ou bien que je suis saoul et mérite l'alcotest. Je comprends votre émoi, car je sais que naguère, entre Sarko et moi, c'était vraiment la guerre. Je l'entends dire encore qu'un croc de boucher, sans gêne et sans remords, il voulait m'accrocher.
Mais alors, Dominique de Villepin, pourquoi ce revirement?
L'UMP est en vrac, écu par-dessus tête, à cause de ce Copé, tout se barre en sucette. Il faudrait désormais recoller les morceaux, et voilà donc pourquoi j'ai pensé au nabo.
Vous êtes sincère, Dominique de Villepin, vous êtes sincère?
Sans être Machiavel, je suis un gars rusé, si je flatte Sarko, c'est pour mieux le briser. Ivre de mes louanges, se prenant pour un lion, il foncera tête baissée, oubliant Big Malion. Mais hélas, rattrapé par les juges féroces, il se pourrait très bien qu'il l'ait profond dans l'os.
Oui, ben, merci Dominique de Villepin.
Et vous, mademoiselle Jade, avez-vous ce matin affrété un taxi ou dégoté un train?
Je suis là, en effet, c'est bon.
Ayons une pensée en cette journée morose pour tous les usagers qui l'ont encore dans le prose.
Ah, c'est beau.
Bonjour, bonjour.
Oh bah non, pas vous, Jean-Marie Le Pen, vous allez encore nous dire des horreurs.
Mais rien du tout, c'est un constat simplement. Je dis que du temps de messieurs Touvier et Papon, les trains partaient à l'heure.
Oh bah non.
Mais sur mon blog, mais qu'est-ce que j'ai dit encore, enfin?
Bonjour Dick Rivers.
Bonjour Michel Douillet.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous voir. Vous avez suivi les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement en Normandie? Enfin, je veux dire en Normandie, Dick.
Attention à tes jeux de mots, Michel. N'en rajoute pas, mignonne.
Donc vous avez suivi ces commémorations en souvenir de ce jour où les côtes normandes s'enflammèrent, Dick.
Oui, bien sûr, Mijet, car les Américains n'ont pas seulement apporté la liberté, la Jeep et les chewing-gums, mais aussi la country music, le rock'n'roll. Alors, pour fêter le D-Day, l'année prochaine, j'espère que sera célébré le Dick Day.
Le Dick Day.
Oui, le jour de Dick, si vous préférez.
J'ai compris,
Dick Day. Le 24 avril, jour de mon anniversaire, car moi aussi, j'ai beaucoup apporté au rock'n'roll.
Alors, vous êtes né le 24 avril 1945, presque un an après le débarquement en Provence, de Toulon à Saint-Tropez.
Twist à Saint-Tropez, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances. Oui, à Saint-Tropez.
Ben, heureusement, peu après, les choses se calmèrent, Dick.
Oui.
Mais le Dick Day, je suppose que vous aimeriez qu'on le célèbre au bord de la mer.
Évidemment, car si t'avais connu la Nice Baie des Anges à moitié nue,
oui, oui,
les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça.
Sans doute. Ça, c'est sûr.
Il n'y a pas de doute, mademoiselle Jeanne. Eh non. 18h50, la rediff, évidemment.
18h50.
Et en podcast, ça marche pas ça, podcast avec vous. RTL.fr. Les essentiels de RTL Matin à suivre avec Philippe Corbet. À demain, Laurent.
À demain.
L'essentiel de RTL Matin avec Philippe Corbet.
Restez branchés sur RTL toute la journée pour mieux circuler car c'est vraiment une journée noire en raison de la double grève à la SNCF et grève des taxis. Mélina Fachin, il y a 2 à 3 fois plus de bouchons en Ile-de-France qu'à matin normal.
Oui, la 86 est complètement bouchée dans les deux sens à cause d'un accident. Des ralentissements importants également sur l'A15 et l'A3. Dans le nord, près de Lille, rien d'alarmant. 5 km de bouchons sur l'A25. Quelques ralentissements sur l'A48 et la N87 près de Grenoble. Enfin, à Lyon sur l'A46, l'opération Escargot est terminée, mais il y a toujours une dizaine de kilomètres de ralentissement.
Une partie de ces blocages sont causés par les taxis qui veulent bloquer plusieurs grandes agglomérations. Ils viennent ainsi de quitter Orly pour converger vers Paris avec ceux de Roissy. Pascal arrive de Bretagne pour enterrer son père et il ne trouve pas de taxi.
Oui, il y en a vraiment marre, c'est pas possible, on peut pas. Là, vous voyez, je vais à l'enterrement de mon père, je suis coincé, donc il faut que je trouve un plan B. Il faut leur demander si eux c'était leur père, comment ils réagiraient. C'est tout.
Le rail maintenant, près d'un cheminot sur deux est en grève, seulement un TGV sur deux ou sur trois, un TER sur trois, un Transilien sur trois. Perturbations aussi sur toutes les lignes du RER sauf la A. Amélie a mis 3 heures pour venir de Beauvais et rejoindre Paris.
En temps normal, je mets 2 heures à aller au travail, donc là, je pense que c'est encore pire. Déjà, c'est blindé, on ne peut pas monter comme on veut, il n'y a pas de place. Je vois qu'il y a une personne qui vient de faire un malaise. C'est pas normal. Je vais rentrer à pas d'heure ce soir parce que mon employeur comprend pas qu'il y ait des grèves et du coup, il faut quand même que je fasse mes heures.
Toutes nos infos pratiques aussi sur RTL.fr. 2 autres informations importantes. D'abord, cette information RTL, le patron de la lutte antiterroriste nous révèle qu'Al-Qaïda forme en ce moment dans des camps en Syrie des Français pour mener des attaques suicides en Europe. Et puis cette déclaration choc de Xavier Bertrand après le compromis adopté à l'UMP. Nous n'avons pas eu besoin de Nicolas Sarkozy pour trouver une solution. Par ailleurs, une confirmation, la nouvelle direction commande un audit des finances du parti et Bruno Le Maire annonce sa candidature à la présidence. Le temps, ce sera plutôt agréable cet après-midi, sauf sur le sud-ouest où il y a un risque d'averse et sur les régions de l'est et le relief où on attend des orages. 19 à Dunkerque, 24 à Paris et 36 à Avignon. Les courses à Auteuil, Jérôme Bernardet vous conseille le 3, le 5, l'As, le 11, le 8, le 4, le 12 et le 14. 3, 5, As, 11, 8, 14. Je répète, 3, 5, As, 11, 8, 4, 12 et 14. La dernière minute, c'est le 11, Rénéon.
Merci Philippe Corbet.
RTL, il est 9h.